Des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Jonathan Trudeau.
Joe Trudeau. Et Maud Boutet. Maud Boutet. Franchement dit.
Cube Radio.
Bon mercredi, aujourd'hui on est le 17 juin 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Je suis en compagnie de Maud Boutet. Bon mercredi, Maud.
Salut.
Hey, je me sens comme un 2 janvier. Sais-tu pourquoi?
Silence, non, je ne sais pas.
C'est pas à cause de la température, mais ben, je me sens comme un 2 janvier lorsque le 1er janvier, t'as pris une bonne résolution.
Ouais.
Et que le 2 janvier.
Tu la scrapes.
T'es comme, t'as comme honte de toi, là. Parce que le 2 janvier, déjà, t'as échoué lamentablement à respecter ta résolution. Puis tu te dis, mais comment j'ai pu penser que je réussirais cette résolution-là? Ben, c'est un peu comment je me sens par rapport au cynisme que j'ai éprouvé avec Richard quant à la volonté du gouvernement de mettre sur pied un projet d'identité unique. Je me suis dit un matin en lisant ça, Maude.
C'est la première affaire que j'ai vue un matin, puis j'ai. Oh,
mais moi,
pas
je me suis dit, cette fois-ci, j'y crois. J'y crois. Le cynisme ne l'emportera pas sur moi. Et là, écoute,
il y a une phrase clé, là. Une phrase clé qui m'a dit, quoi. Il m'a fait dire, oui, que je suis pas sûr.
T'es quoi?
Nous serons les premiers dans le monde à tenter la chose. Là, j'étais comme, ah ouais, fait que on pave notre propre voie là-dedans dans le numérique. Ah ouais, hein? OK.
On pave notre propre voie ou on creuse notre propre tombe?
J'aime mieux, tu sais, ça va être le petit bout d'optimiste. On pave la voie. On est des précurseurs. Ouais.
Jean Charest avait toujours, à l'époque où j'étais au gouvernement, là, et même les journalistes, des fois, viraient ça un peu en blague ou un peu en ridicule, mais trouvaient toujours le moyen de dire qu'on était les premiers au monde en ci ou les meilleurs au monde en ça.
Mais c'est
ou
le fun là, à
fois,
dire.
Si, Paul,
tu peux
on
te
est donc bien bon.
Le chest, puis tu moi, là, premier au monde. On
mais
le fait
en informatique,
premier, mon gars.
Ouais. On veut être les premiers au monde en informatique, mon gars.
En ce moment, on est comme. Moi, dans ma tête, on est les derniers pour plein d'affaires en informatique.
Écoute.
Tu sais, quand je pense à informatique, grand avancement, je pense à des pays asiatiques. Mettons, même aux États-Unis. Je sais qu'on a du bon monde ici, là, mais j'ai des doutes
on
quant
a
à la
bon
partie
monde.
Gouvernementale de la chose.
J'ai souvent dit que lors de mes années passées au gouvernement, j'ai appris à apprécier la fonction publique. T'sais. On a, je pense, un préjugé souvent négatif. Là, le fonctionnaire, on appelle ça le rond de cuir, puis le pousseau de crayon, puis celui qui fait des X son calendrier. Je dis pas que j'en ai pas vu, mais de façon générale, on a une fonction publique qui est très compétente. Mais je mettais un petit astérisque là, au bout de cette affirmation. Dans les directions d'informatique que moi j'ai côtoyées, écoute, ça va faire 10 ans que j'ai quitté la politique, quand même. Là. Mais c'est pas là que j'étais impressionné.
Ouais.
C'est pas là que j'étais impressionné. Et là, on nous dit qu'on travaille à mettre en place le premier système du genre au monde, que ça pourrait coûter des milliards de dollars. Si déjà on pense que ça va coûter des milliards de dollars, as-tu idée de la facture en bout de ligne?
J'ai pas le goût d'y penser. Comme pas.
Puis on nous parle de 2025.
Ouais.
Je sais pas. Je suis vraiment déçu de moi parce que ce matin, je disais ça, puis je me disais, OK, oui, il y a des questions, mais je veux pas tomber dans le cynisme. Puis là, je me suis rendu compte que.
C'est facile de tomber dans le cynisme.
Mais tu sais, l'image que je donnais à Richard, là, pas exagérer, mais c'est quand même ça pareil. T'sais, des fois, on va dire, faut apprendre à marcher avant de courir. Là, il faudrait apprendre à ramper avant de courir. Tu sais, je te donnais l'image d'un bébé qui n'est pas capable encore de mettre sa suce dans sa bouche. Tu sais, c'est cute, il s'amuse un peu partout dans le front, dans le
nez. C'est ce qui attaque, là, whoop!
Un moment donné, oh, il pogne. En termes d'informatique, c'est plus là qu'on est, là. On cherche le trou pour mettre la suce.
Oui, on est encore là, parce que tu évoquais les fax, les USB. Puis là,
c'est Santé
on veut...
Québec.
Mais là, tu sais, en plus, on se dit, ben, on va faire affaire un peu avec Desjardins. Puis là, moi, je suis comme, Desjardins. Hé, Colin, on va fêter le 1 an de la fuite de données personnelles la plus importante ici du Québec dans quelques jours. Et là, on voudrait faire affaire avec Desjardins. Je ne sais pas.
Desjardins veut faire affaire avec nous. T'sais, en fait, Desjardins veut faire affaire avec le gouvernement en la matière. On se demande s'ils ont appris de leur leçon. T'sais. Si j'étais client Desjardins, je me poserais des questions. Voyons, come on, guys. Anyway, on va en parler avec un expert tantôt, voir s'il n'y a que nous là, qui avons des questions. Parce que nous autres, c'est la réalisation de la chose, les coûts, mais au niveau de la sécurité, tout ça, je suis genre de parler avec Damien Bancal.
Là, c'est quoi la fameuse chaîne de blocs? T'sais, Mario puis Benoît, ça en parlait ce matin. Puis je suis allée lire en même temps sur Wikipédia. Je pourrais peut-être leur envoyer une petite ligne là, de résumé. Puis je suis comme, c'est-tu quoi? Je sais pas. c'est un concept bien flou.
J'ai fait quelques entrevues sur la chaîne de blocs dans les dernières années, sur le blockchain, surtout en lien avec le bitcoin puis tout ça. Là.
Oui, parce que c'est
J'ai encore de la misère.
C'est complexe.
Encore de la misère. C'est plat parce que je connaissais quelqu'un qui était bon, qui aurait pu nous l'expliquer, qui l'expliquait bien, mais ce genre de personne qui est tombé du côté obscur de la force des complotistes là, dans les derniers mois, fait que je me suis dit non, ça me tente pas de l'inviter. Le genre de personne que tu as fini par masquer sur ton Facebook parce que tu n'étais plus capable de l'entendre. Ouais. Malheureusement, c'est ça. Quand on prend pour des positions comme ça, à un moment donné, ça se peut qu'on tombe dans l'oubli, mais c'est une toute autre histoire. Hey, je veux te parler d'un élément. j'ai pas le temps de regarder si ça fait beaucoup réagir ce matin. C'est quand même la page couverture du journal est en page 3. Je ne sais pas comment les différents partis politiques vont se positionner, comment l'opinion publique va réagir, mais sous la plume du collègue Patrick Bellerose dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, on apprend que la facture des maisons des aînés, semble-t-il, exploserait de 50%. La promesse électorale de la CAQ, je vous le rappelle, c'était de créer 2600 places dans une trentaine d'établissements, donc une trentaine de maisons des aînés, 2600 places pour un coût d'$1 milliard, mais finalement, ils se sont rendus compte en évaluant la répartition régionale et tout ça, les critères qu'ils veulent mettre, c'est-à-dire d'avoir moins de patients ou de résidents par maison pour mieux s'en occuper. Là. Comment ils disaient ça sur l'immigration? En prendre moins, mais en prendre soin. Là. C'est un peu ça qu'on veut faire avec les aînés.
Ouais.
Donc, au lieu d'une trentaine de résidences, ce serait 48 résidences. Fait que, tu sais, c'est quand même... là aussi, c'est un 50% d'augmentation, mais pour le même nombre de résidents. Évidemment, ça coûte plus cher, là, parce que tu construis 50% de plus de bâtisses. Donc, là, le coût qui serait évalué à $1.5 billion, j'arrondis, 1,49 milliards de dollars, plutôt qu'$1 milliard. De là, le dépassement de coût de 50%. Bon, premièrement, est-ce que c'est un dépassement de coût? Moi, je suis pas prêt à dire ça. Un dépassement de coût, c'est quand tu commences à construire quelque chose et qu'en cours de route, c'est ça. Mais tu sais, un moment donné, t'es un parti politique, pis ça, on parlait du cynisme, là. Faut pas être trop cynique. Quand t'es un parti politique qui premièrement, a pas tous les moyens d'un gouvernement pour faire évaluer, là, de façon juste dans le jargon, on dit le costing, là, tu sais, l'évaluation des coûts. Tu sais, c'est sûr que c'est une évaluation sommaire que tu fais. Donc là, on vient ajuster parce que, pas juste parce que ça coûte plus cher, parce qu'on revoit certains détails, comme le nombre d'établissements. Mais mon point central est le suivant, là. Je vais pas en entendre un maudit chialer. T'sais, est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui va chialer que finalement ça coûterait 1,5 milliard pour construire 48 maisons pour aînés, alors que ça fait des mois qu'on pleure puis qu'on se dit que c'est donc bien épouvantable puis que nos aînés puis que c'est pas, tu sais, c'est pas juste des numéros, que on veut pas qu'ils vivent dans des mouroirs puis. Si ça coûte 1,5 milliard et qu'on nous justifie là, de façon correcte ce prix-là, parce que c'est quand même 190 000 piastres de plus par logement, là, par unité de l'habitation, ça revient à 190 000 piastres de plus si tu fais une règle de 3. Là. T'sais, je trouve que ça coûte cher de la prise de courant. Là. Mais ça, c'est pas nouveau au Québec. Ça a l'air que ça coûte 1 million qu'on sur une classe de maternelle avec un lavabo et un écran. Là, fait qu'on nous explique le coût, mais si il est justifié, justifiable... On est supposé de s'en sacrer, là. À la lumière de la pandémie qu'on vient de vivre, on est supposé de s'en sacrer du coût des maisons des aînés. On veut s'occuper de nos aînés. Allez pas critiquer ça, là.
Ben, je pense que ce qui te dérange plus, c'est le fait qu'on en construise plus, mais qu'on reste avec le même nombre de places. Tu sais, je comprends le concept, mais au final, on va avoir 2600 places pour le même coût, mais dans plus d'établissements. Je comprends qu'on va avoir des espaces qui vont être plus grands, qu'on va avoir moins ça va être moins tout pogné, puis c'est, mettons que ça n'a pas aidé durant la pandémie, mais tu sais, en ayant 48, puis en se disant, dans certains endroits, ben on va en construire moins parce qu'il y a moins de monde, puis il y a comme une logique, il y a des bouts que j'ai l'impression de ne pas suivre. Notre population est vieillissante, pourquoi on ne prend pas les devants puis qu'on n'en fait pas un peu plus pour avoir un peu de lousse?
Ben, parce que je pense que c'est une première vague, premièrement. On parle beaucoup de vagues ces temps-ci. Là, je pense pas qu'ils veulent s'en tenir à uniquement 48 résidences et ne plus jamais en construire.
J'espère
c'est une première mouture des maisons des aînés qui mènerait une deuxième génération et tout. Donc, oui, c'est cher, mais le principe de garder des endroits plus raisonnables en termes de nombre de résidents, moi, je peux pas être contre ça. Là. Quand ils sont 300, 400, 500, 600 résidents, ça coûte moins cher. C'est le principe d'économie d'échelle. Je veux dire, à un moment donné, l'enveloppe de la bâtisse, c'est sûr qu'elle va te coûter X montant. Là. Et là, plus tu rajoutes du monde, oui, le montant, il augmente, mais tu as le principe d'économie d'échelle. Bref, c'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher d'en construire moins pour le même nombre. Il y a d'en construire plus de résidences pour le même nombre, mais est-ce que vraiment on va s'arrêter au coût? Je dis pas qu'il faut pas du tout y penser.
Non, je pense pas. On est rendu à investir là-dedans. On ne peut pas se le permettre. Là, ce serait tellement illogique après, justement, comme tu l'évoquais, le fait qu'on ait pleuré pendant 3 mois, qu'on a laissé nos aînés dans des situations pas possibles, dans des environnements pas possibles, laissés à eux-mêmes dans des conditions exécrables. S'il y a quelqu'un qui vient me dire aujourd'hui, ben moi, je pense pas qu'on est prêt à investir un peu plus.
Je sais, je suis même fatiguant avec ce concept-là, mais ça fait des années que je ramène mon concept d'indignation à géométrie variable.
Oui.
Tu sais, qui est, je trouve, très caractéristique de comment on réagit face au sort de nos aînés, au sort de nos jeunes, tu sais, la DPJ, tout ça. On s'indigne fort, 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 gros, pas content, pas content. Puis là, après ça, tu sais, ça s'estompe, puis finalement, on dit, les aînés font investir, plus jamais on va accepter ça. Quoi? 1,4 milliard, êtes-vous fous?
Ouais.
On veut-tu le régler ou on veut pas le régler le problème, là? Alors, voilà. On va voir comment, entre autres, les partis politiques vont réagir à ça, la volonté qui semble être assez ferme quand même du côté du gouvernement. On va faire une première pause, bougez pas, on revient dans quelques minutes.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacan. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines.
Vous écoutez
Franchement dit.
Tu sais, Maude, quand on pense à inviter des gens pour aborder certains sujets à l'émission, c'est sûr qu'on a en tête une certaine diversité dans nos intervenants. T'sais. Sur un même sujet, pas toujours parler aux mêmes personnes, c'est le fun d'aller chercher différents points de vue, mais à mon sens, il y a deux critères qui vont faire en sorte que, fois après fois, je vais reparler à une même personne sur un même sujet. Premièrement, lorsque la personne est bonne, on s'est entendu. Tu sais, quand c'est une personne qui est bonne en ondes, tu veux pas t'en passer. Mais il y a aussi le fait d'être en mesure de suivre l'évolution d'une situation, du discours d'une personne ou d'un organisme dans le temps. Et c'est pour ça que je trouve ça si intéressant de lui reparler fois après fois depuis le début de la crise économique et de la pandémie. Je parle de Charles Milliard, qui est président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, conjoint avec grand plaisir. Monsieur Milliard, bonjour.
Bonjour à tout le monde. Merci pour vos bons mots. Je vais tâcher d'être intéressant.
Moi, je vous mets un petit peu de pression. Évidemment, on va parler de la PCU, mais avant ça, je veux savoir, de façon générale, quand je parlais d'évolution de la situation, vous êtes passé, vos membres sont passés par toute la gamme des émotions depuis le mois de mars dernier. J'ai envie de savoir comment se passe la relance économique. Est-ce que c'est aussi ardu que ce qu'on anticipait? Est-ce que ça se passe relativement bien? C'est quoi les échos que vous avez en ce moment, M. Milliard?
Ben, c'est très subjectif, mes commentaires, mais je vous dirais que ça se passe relativement bien. Puis je prends pour témoin un sondage qu'on a fait il y a déjà 2 semaines et demie avec l'Institut de recherche sur les PME, l'UQTR, qui montrait finalement le désastre économique dans plusieurs régions, puis à quel point l'impact était différent d'une région à l'autre, mais qui se terminait sur une note positive en disant qu'il y avait plus de gens qui étaient optimistes que pessimistes par rapport à la relance. Et même au-delà de 85% des entreprises n'envisageaient plus la faillite comme une finalité. Fait que moi, je prends ça comme un peu un signe d'espoir, et on le voit, on voit les chiffres de nouveaux cas de décès qui continuent de baisser. Il faut être sur nos gardes à chaque jour, mais je vous dirais que globalement, ça se passe assez bien. Moi, je suis allé personnellement, si ça vous intéresse, me faire couper les cheveux hier soir. Et j'en suis pas revenu de comment mon salon s'était adapté rapidement. Là. Donc, je trouve que c'est un exemple intéressant de voir comment les gens répondent présents, sont responsables. Et pour l'instant, ça se passe relativement bien.
Ma question est peut-être difficile à répondre parce que, bon, en étant à la Fédération des chambres de commerce du Québec, vous représentez toutes sortes de secteurs d'activité, mm-hmm. mais de façon générale, quand les gens vous disent, ben voici combien de temps on pense que ça va nous prendre avant de revenir à une certaine normalité, mm-hmm. je parle particulièrement au niveau des finances, là, est-ce que les gens pensent que dans les prochains mois, ils vont être capables de revenir à flot, de payer les sommes dues, ou certains disent, non, ça va prendre 2, 3, 4, 5 ans avant qu'on puisse retrouver notre air d'aller, par exemple?
C'est extrêmement variable. Ça prend racine, justement, dans le fait qu'on représente plusieurs secteurs d'activité. Il y a beaucoup de gens dans le manufacturier, dans le commerce de détail, les services essentiels, qui ont quand même bénéficié, entre guillemets, de la crise. Alors, pour eux, c'est une année qui même pourrait être qualifiée de faste en tout respect. Alors qu'on a on a beaucoup, beaucoup de membres dans le secteur touristique. Et pour eux, les annonces de la semaine passée, bien sûr, c'est un pas dans la bonne direction. Mais ça sera pas suffisant parce qu'il y a une montagne de coûts fixes et c'est pas dit que les gens vont retourner en vacances si facilement que ça. Il y avait un sondage récemment qui a été fait par CAA. J'ai vu ça hier dans le journal. Oui. Les gens veulent rester au Québec, mais ils veulent rester au Québec, ils veulent rester dans leur cours. Les ventes de spas, les ventes de piscines explosent. Alors ça fait pas des hôtels très bondés puis des restaurants très occupés non plus en région.
Le concept de... Je voulais aborder ça avec vous, puis vous m'ouvrez la porte. Le concept d'argent neuf. Tu sais, on parle souvent, lorsqu'on a du tourisme étranger, par exemple, ou des entreprises à l'étranger qui viennent au Québec, on dit, ah, ben ça, c'est de l'argent neuf, là, qu'on rentre dans l'économie, ce qui semble toujours être un avantage, un plus. Justement, là, on parle du Québec qui va consommer le Québec. Est-ce que il y a quelque chose de différent économiquement aux impacts que ça peut avoir? Est-ce que c'est moins positif? Ou, tu sais, c'est quoi la différence avec le fait d'amener des nouveaux capitaux de l'extérieur, par exemple?
Ben, je voudrais que l'argent du Québec et des Québécois circule entre nous, c'est bien. C'est mieux qu'elle ne circule pas comme c'est le cas depuis le 12 mars, ou pratiquement. Mais c'est certain que ça remplacera jamais la demande extérieure. Donc, tu sais, en ce moment, on a la demande publique, la demande privée, la demande extérieure. Et ces trois défis qu'on va devoir adresser de façon différente. La demande publique, on a essayé d'en discuter la semaine passée avec le PL61. La demande privée, il faudra qu'il y ait des incitatifs clair pour que, justement, le secteur privé soit tenté de reprendre la reprise le plus tôt possible. Puis la demande extérieure, ben là, c'est un peu tributaire des décisions, évidemment, du gouvernement fédéral, la situation des frontières. Mais ça, c'est certain que ça va reprendre un petit peu plus lentement que le reste.
Moi, j'aime bien souvent parler d'un effet de balancier là, dans bien des sujets. Là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aller là, à un extrême, mais là, oups, finalement, on vient qu'on se replace. Puis au début de la crise, on a beaucoup, beaucoup parlé d'autonomie, du protectionnime, de « hey, là, faut arrêter d'être dépendant ». Mais en même temps, là, le retour du balancier, il se fait un peu sentir en ce sens que on se rend compte que oui, on va être plus autonome, mais on a quand même besoin des marchés extérieurs, comme vous venez de l'évoquer. Là.
Complètement. Ben, les gens veulent toujours opposer hein, achat local puis exportation, donc demande québécoise, demande internationale, mais on n'a pas de choix à faire. Les deux peuvent très, très bien vivre. Puis c'est ce qu'on a dit dans la campagne d'achat local. Bien sûr que tout le monde ne commencera pas à acheter tout son stock au magasin du coin, puis ils vont encore avoir des achats à l'international. Puis il faut qu'il y en ait, parce que le Québec, c'est à la base une nation exportatrice. Mais je vous rappelle encore la fameuse statistique que moi j'aimais bien de M. Fitzgibbon, 5 $ par semaine d'achat dans un commerce près de chez vous, par semaine, si tout le monde le fait, c'est 1 milliard, justement, qu'on fait circuler dans l'économie québécoise. Donc, c'est des petits gestes. Le fait qu'on soit 8 millions nous permet justement que les petits gestes mis ensemble fassent des miracles économiques.
Bon, on a parlé à plusieurs reprises ensemble de la fameuse PCU, des effets pervers que ça pouvait avoir. Là, la semaine dernière, le premier ministre Trudeau qui semblait dire « Ouais, on est en train de se questionner à savoir est-ce qu'on va reconduire ce programme-là, est-ce qu'on va le moduler, est-ce qu'on va être plus sévère, avoir des critères plus restrictifs, éviter les dérapages, la fraude, etc. » Finalement, pour des raisons de politique partisane, là, c'est-à-dire d'éviter de tomber dans un vote de confiance puis d'aller chercher l'assentiment d'un des partis d'opposition, le premier ministre Trudeau a annoncé hier qu'on prolongeait de 8 semaines la PCU dans sa forme actuelle. Ma question est assez simple. Comment qualifieriez-vous votre réaction, votre humeur hier quand vous avez appris ça?
Ben écoutez, moi, pour vous faire rigoler un peu, je pense qu'il y a deux signes clairs là, que le printemps commence à retourner à la normale. Il y a eu des embouteillages sur la 15 hier, puis il y a une bataille politique qui reprend à Québec et à Ottawa, puis qui va se faire aux dépens, malheureusement, du développement économique du Canada. Alors, on l'a vu au Québec avec le PL61, on pourra en reparler peut-être, on aura tout l'été pour en reparler malheureusement, mais au niveau de la PCU, c'est pas facile notre position parce qu'on a l'air de dire qu'on veut pas que les gens aient de la PCU. Bien sûr, il y a des gens qui en ont encore besoin, je pense aux gens du secteur artistique, alors je veux juste être clair que il y a des gens qui ont encore besoin de la prestation canadienne d'urgence, mais c'est pas vrai qu'il fallait reconduire ça sans faire des modifications sur la façon de l'appliquer. Puis je pense qu'à 17 milliards de dépenses par mois, fois 6 mois, donc un potentiel de 102 milliards, c'est normal qu'il y ait des associations comme nous qui disent « Assurons-nous que les mesures, que la façon d'accéder à cet argent-là soit pas un désincitatif au travail. » Je me répète, là, ça on le dit depuis le début mai, mais je vais le dire encore pendant un mois parce que ça n'a pas de bon sens que les employeurs aient de la misère à recruter des employés alors qu'il y en a plein qui sont chez eux en même temps. Et je sais, j'ai eu des discussions avec des syndicats, je ne veux pas nécessairement que tous les gens aient travaillé dans n'importe quel travail. On ne fait pas d'un plombier un plâtrier, on ne fait pas d'un tireur de joint un vendeur d'automobile. Je suis bien d'accord avec ça, mais l'adéquation ne pourra pas être parfaite. Mais en ce moment, on a un gouvernement qui n'incite pas au travail avec cette mesure-là. Ça me crève le cœur de le dire, mais c'est ça la réalité.
Est-ce que ça va faire fermer des entreprises carrément? Tu sais, je veux dire, est-ce que faut pas on doit éviter d'être trop fataliste et dire ben oui, ça rend la chose plus difficile ou on peut carrément aller jusqu'à dire que dans certains secteurs, ça va vraiment jouer un rôle, là. Tu sais, l'incapacité de trouver des employés de rester à flot. Est-ce qu'on va jusque-là?
Ben, écoutez, je dirais pas jusque-là parce que j'ai des employés actuels qui travaillent. Moi, je pense que ça va impacter l'hygiène de vie des travailleurs actuels. Parce que si, exemple, les étudiants ne rentrent pas cet été pour remplacer les vacances des travailleurs normaux, ben les entreprises, est-ce qu'elles vont fermer ou ils vont demander aux employés de faire du temps supplémentaire ou de reporter leurs vacances? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Puis on ne devrait pas en arriver là parce qu'on est dans un contexte de relance en ce moment. On a un gouvernement qui a été hyper présent, très efficace, très agile. Tu sais, je vous rappelle qu'on s'est déjà parlé, vous et moi, sur les chèques, est-ce qu'ils vont vraiment arriver dans le délai qu'on pense, puis on blaguait un peu, qu'on n'était pas sûr, mais la réponse, c'est oui, ils sont arrivés. Donc, ils ont été extrêmement pertinents. Mais là, à cause d'une petite bataille politique, un gouvernement minoritaire, évidemment, ben là, on entre dans une partie de bras de fer où on essaie de négocier, alors qu'on devrait dire, cette mesure-là, c'est une mesure d'urgence, on la convertit en mesure de relance, parce qu'il y a encore des millions de Canadiens qui en ont besoin, mais pas tous ceux qui sont visés en ce moment, ce matin.
Ouais. Vous avez mentionné le projet de loi 61 qui, bon, notamment visait l'accélération de plus de 200 projets d'infrastructures pour relancer l'économie. Moi, je disais à plusieurs reprises, là, tu sais, j'en suis là, je suis d'accord, oui, c'est vrai, les infrastructures, mais en même temps, je trouve qu'on mise beaucoup sur le béton. Je trouve qu'on ne nous parle pas assez d'innovation, de recherche, d'opportunités de transformer ou encore d'adapter notre économie, de profiter de la relance. Est-ce que vous partagez ce constat-là? Puis sinon, selon vos échos, est-ce que ça s'en vient? Est-ce qu'on va mettre l'emphase là-dessus aussi?
Ben ça aussi encore c'est un débat puis Dieu sait que je suis pas là pour faire la promotion du gouvernement là, mais fallait étudier le projet de loi pour ce qu'il est. C'est un plan de relance de l'infrastructure, donc du PQI. C'est pas le plan de relance du gouvernement du Québec. Alors oui, les gens se plaignaient qu'il y avait rien pour le tourisme, la restauration là-dedans, mais je pense que la vision du gouvernement allait au-delà du projet de loi. Ceci étant dit, ce projet de loi-là, il était effectivement perfectible, puis moi, je suis le premier à le reconnaître qu'il y a des articles qui devaient être précisés et qu'il y a certains projets qui pouvaient être lancés sans ce projet de loi-là. Donc ça, je suis d'accord, mais en même temps, il y avait des affaires très intéressantes là-dedans, comme l'allègement réglementaire pour la restauration, le dossier des évictions commerciales. Donc, nous, on va continuer de faire pression pour que le gouvernement réagisse pour éviter les évictions commerciales, même pendant l'été. Mais, encore une fois, là, on a un peu jeté le bébé là, avec l'eau du bain dans le cadre du PL61, malheureusement.
Oui, parce que comme l'éviction commerciale, ça j'en ai parlé à quelques reprises déjà, c'était dans les articles du projet de loi dont peu de gens ont parlé. On demandait à ce que ce soit interdit, si on veut, là, jusqu'à la fin août. Là, ça n'a pas été adopté. Là, donc, c'est un enjeu réel pour des locataires.
Puis je l'ai dit à quelques reprises, puis je l'ai dit en commission parlementaire, je trouve ça un peu méprisant pour la communauté d'affaires de penser que tout le monde attend puis se lime les ongles là, en espérant pouvoir s'esquiver de tous les délais. Moi, je ne représente pas cette communauté d'affaires-là, en tout cas. Ce qu'on veut, c'est diminuer les délais administratifs, pas les exigences du gouvernement et de la société québécoise. Mais bon, c'est le jeu politique.
Oui, ben exactement. On va suivre ça pendant l'été. Mon moins bon, ce qui est positif un peu, c'est de voir que pour bien des gens, la relance se passe quand même relativement bien. On va espérer que pour les autres, ils réussiront à s'en sortir. Charles Milliard, donc PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci, c'est toujours un plaisir.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit.
Cube Radio.
Avant d'aller rejoindre notre prochain invité, je vous ramène un peu en arrière. On se transporte en octobre 2015, au lendemain d'une victoire de Justin Trudeau et de l'équipe libérale qui obtenait un gouvernement majoritaire. Un discours enflammé devant ses partisans. Justin Trudeau qui déclarait ceci.
I want to say this to this country's friends all around the world. Many of you have worried that Canada has lost its compassionate and constructive voice in the world over the past 10 years. Well, I have a simple message for you. On behalf of 35 million Canadians, we're back.
Hey, we're back, c'est ce qu'il disait Justin Trudeau. C'est que le Canada était de retour sur la scène internationale et ça passait notamment par l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça fait 20 ans que le Canada n'est pas présent autour de cette table-là. Et c'est drôle, Maud, parce que ce matin, à Salut Bonjour, Gino Chouinard me demandait est-ce que Justin Trudeau a mal dormi avec le vote de confiance là, à la Chambre des communes. S'il y a quelque chose qui l'a endormi, qui lui a empêché de dormir, c'est certainement pas le vote aux communes, non. Mais plus le vote à l'ONU. On va en discuter avec un spécialiste en la matière, Jocelyn Coulon, qui est chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Également, il est l'auteur du livre « À quoi sert le Conseil de sécurité des Nations unies ». Monsieur Coulon, bonjour.
Bonjour.
Alors tiens, je vais commencer avec la question qui est le titre de votre livre pour les gens qui sont moins au fait des différents éléments de politique internationale. À quoi ça sert effectivement le Conseil de sécurité des Nations unies?
Eh bien, comme le dit son nom, le Conseil de sécurité, c'est l'instance suprême, disons, de la communauté internationale pour gérer ou régler les conflits et les guerres dans le monde. Alors, c'est le mandat qui lui a été accordé par les États membres lorsqu'ils ont créé l'ONU en 1945. Et le Conseil de sécurité a tenté, tant bien que mal, moi je pense que c'est plutôt du côté du bien, de régler ces problèmes ou de les gérer.
Qu'est-ce qui explique l'absence du Canada autour de cette table depuis une vingtaine d'années? Bon, Justin Trudeau qui avait reproché un désengagement au niveau des responsabilités du Canada à l'international à Stephen Harper. Pourtant, lorsqu'on parle de sécurité, de présence, par exemple, des forces armées, de conflits, certains auraient tendance à penser que des gens conservateurs du Parti conservateur vont plus être interventionnistes en la matière, l'armée et tout ça. Or, pourquoi on reproche à Stephen Harper d'avoir désengager le Canada?
En fait, ce qu'a fait Stephen Harper, c'est qu'il s'est surtout engagé dans des coalitions américaines ou à travers l'OTAN pour intervenir sur la scène internationale et gérer ou régler des conflits. Or, il existe une autre instance pour faire ça, c'est l'ONU et son Conseil de sécurité. Et là, Stephen Harper a levé le nez sur les Nations unies, et ça a coûté très cher, puisque vous vous en rappellerez, en octobre 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a préféré le Portugal au Canada. C'était la première fois en 60 ans que le Canada n'était pas élu au Conseil de sécurité.
Et pourquoi est-ce si important pour Justin Trudeau? Bon, il y a l'engagement électoral, je viens de faire entendre le célèbre extrait « We're back », puis il y a eu « Canada's back, my friends » et tout ça. Au-delà de l'engagement électoral, pourquoi est-ce si important pour Justin Trudeau, ce siège-là?
Je pense que ça dépasse Justin Trudeau. C'est plutôt la position du Canada sur la scène internationale. Le Canada a bâti toute sa réputation depuis 1945 autour de la participation au multilatéralisme. C'est-à-dire, on règle les problèmes en commun, en discussion avec nos partenaires et parfois avec nos ennemis. Et l'ONU, eh bien, c'est la représentation même du multilatéralisme, et c'est donc important non seulement d'être membre des organisations internationales, mais d'y participer activement. Et ça a toujours été dans cet esprit-là que le Canada a posé sa candidature pour siéger au Conseil de sécurité et qu'il a gagné pratiquement toutes ses campagnes, sauf celle de 2010. On verra aujourd'hui si la communauté internationale estime que le Canada mérite d'être au Conseil de sécurité.
Et si on faisait ensemble, M. Coulon, l'exercice que ces membres-là vont faire là, en mettant de côté les considérations là, géopolitiques et les amitiés puis la stratégie, mais si objectivement justement on analysait le travail du Canada au cours des 5 dernières années, autant au niveau de l'implication à l'international que des représentations auprès de l'ONU, est-ce que la campagne, nonobstant le résultat, on y reviendra dans quelques instants, mais est-ce que le Canada a bien joué ses dés au cours des dernières années?
Alors, pour répondre à cette question-là, il faut faire une comparaison avec deux campagnes qui ont connu un succès très brillant. C'est celle de Brian Mulroney en 1988 et celle de Jean Chrétien en 1998. Ces deux gouvernements sont arrivés à l'Assemblée générale de l'ONU avec un bilan, pas avec des promesses, avec un bilan. Dans le cas de Brian Mulroney, il avait été, vous vous en souvenez, un des fers de lance de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il s'était même opposé à Ronald Reagan et à Margaret Thatcher sur cette question. Et ça avait fait du bruit dans le monde entier, puisqu'on avait reconnu le rôle de leadership du Canada sur cette question. Il avait aussi contribué avec François Mitterrand à la création de la francophonie. Il y a eu d'autres initiatives. Avec Jean Chrétien, 10 ans plus tard, là encore, le Canada s'illustre avec un concept, la sécurité humaine, qui place au cœur des préoccupations internationales la sécurité des individus plutôt que celle constamment des États. Et ça a donné des réalisations concrètes. La Convention d'Ottawa sur l'élimination des mines antipersonnelles, et c'était drôlement important pour pas mal de pays dans le monde, la création de la Cour pénale internationale, le déploiement de 3000 casques bleus en Bosnie, en Croatie, en Haïti. Donc, les deux gouvernements sont arrivés avec des réalisations concrètes et ils ont dit aux membres de l'Assemblée générale, on va continuer dans cette direction. 5 ans après l'élection de Justin Trudeau, on est incapable de nommer une grande initiative qui marque le mandat de Justin Trudeau. Moi-même, il n'y en a aucune qui me vient à l'idée, sauf des trucs extrêmement pointus sur la protection des civils dans les conflits, mais ça n'a pas donné de matérialité, c'est pas quelque chose dont les gens se souviennent réellement. Et je pense que les membres de l'Assemblée générale sont en train de juger ce bilan assez mince. Aussi, ils vont se dire, l'Irlande et la Norvège, qui sont des petits pays de 5 millions d'habitants, comparés aux 38 millions du Canada, et qui sont plus présents que le Canada en Afrique, par exemple. L'Afrique, il ne faut pas l'oublier, c'est 54 voix sur 193. C'est ça qui va faire, à mon avis, la différence entre une victoire et une défaite du Canada.
Donc, le rôle de Marc-André Blanchard, un avocat bien connu qui a été proche au niveau politique, notamment au Parti libéral du Québec, que moi j'ai connu dans ces instances-là, c'est un homme brillant, habile, un fin diplomate, et lui, il a insisté pour demeurer là, pour mener cette campagne-là, parce qu'après la réélection de Justin Trudeau, il avait même été évoqué qu'il devienne une espèce d'éminence grise là pour remplacer Gerald Butts, mais il a dit non, je veux rester là, mais en même temps, je me dis... Est-ce que Marc-André Blanchard se dirige vers une défaite inévitable et doit-on se dire que Justin Trudeau ne lui a pas donné les moyens, les outils pour rendre cette campagne-là victorieuse?
Alors, on ne sait pas si le Canada va perdre parce que c'est un scrutin secret et tout peut arriver dans un scrutin secret. Mais quand on analyse les campagnes précédentes et le peu d'intérêt qu'il y a eu dans cette campagne de la part du premier ministre, on ne serait pas surpris aussi qu'on encaisse une lourde défaite. L'action de Marc-André Blanchard, elle a certainement été intéressante à New York, mais si vous n'avez pas de bilan, et si ce que vous proposez, c'est des discours et non pas des actions concrètes, ben, les gens vont juger, les États vont juger sur votre bilan et sur des actions concrètes, quelle que soit la qualité de l'ambassadeur que vous avez aux Nations Unies. On avait d'excellents ambassadeurs en 2010, lorsque le Canada a perdu. Les États ont jugé que le Canada de Stephen Harper ne collait pas à leurs valeurs ou à leurs intérêts. Donc, quand on regarde l'implication de M. Trudeau, mais aussi de Chrystia Freeland, il ne faut pas oublier qu'elle a été ministre des Affaires étrangères pendant 3 ans, c'est pas des implications qui ont été quotidiennes et marquées dans la campagne. Or, tous les spécialistes vous diront, si Mulroney et Chrétien ont gagné, c'est parce qu'ils se sont engagés quotidiennement dans la campagne pendant plusieurs années.
Parlons de cette campagne-là, justement. Est-ce que, et corrigez-moi si je me trompe, parce que l'idée qu'on s'en fait lorsqu'on regarde le déroulement, on pense un peu à la course à l'obtention de Jeux olympiques, là, tu sais, de séduire des membres du CIO. Là, je disais même que Grégory Charles avait offert un spectacle où il prenait les demandes spéciales des différents États et tout ça. Jusqu'à quel point ce processus-là, il peut être biaisé ou, tu sais, comment qu'on le qualifie?
Vous savez, dans ce vote-là, ce qui compte beaucoup, c'est la relation bilatérale que le Canada entretient avec chacun des 192 autres États membres de l'ONU. Et chacun de ces États va se demander la question suivante. Qu'est-ce que le Canada a fait pour moi au cours des 5 dernières années? Et si moi, je suis le président du Bénin ou de la Zambie ou du Paraguay, puis que je m'apprête à voter, ben, je vais demander à mon ministre des Affaires étrangères qu'est-ce que le Canada a fait, mais qu'est-ce que l'Irlande a fait, puis qu'est-ce que la Norvège a fait. Puis à partir de ça, je vais pouvoir déterminer mon vote. Et ça va jouer beaucoup dans le vote aujourd'hui. Et je ne crois pas que le Canada a été très présent pour chacun de ces 192 États membres.
Dans un texte que vous avez publié qui est fort intéressant, que j'invite les gens à lire, vous parlez par exemple du cas de l'Israël, qui a jamais été élu au Conseil de sécurité, mais qui en 2008, vous dites, avait retiré sa candidature devant le peu d'enthousiasme qu'elle suscitait. De votre point de vue, avec tous les constats que vous dressez là, est-ce qu'à un certain moment, le Canada aurait pas dû retirer carrément sa candidature, attendre un autre tour plutôt que de risquer la gifle, de risquer l'humiliation que bien des gens prévoient pour cette semaine?
Non, je pense pas. La question, c'est quand vous posez votre candidature, il faut que vous soyez engagé à partir de la première journée où vous avez fait le dépôt de votre candidature. C'est ce que fait l'Irlande depuis 2005. Ça fait 15 ans que l'Irlande est en campagne pour obtenir un siège au Conseil de sécurité. Alors, la plupart des observateurs se demandent, est-ce que ce sont les coureurs de fond qui gagnent ou ce sont les sprinteurs de dernière minute? Et Justin Trudeau a été un sprinter, vous avez constaté, qu'il a commencé à se réchauffer, surtout au mois de janvier, avec mm-hmm. un voyage en Afrique, avec des coups de téléphone à certains leaders, avec la participation à des sommets internationaux. Mais est-ce que c'était trop peu, trop tard? C'est ça qu'on va voir aussi. Mais j'en reviens quand même toujours à ces éléments de base. C'est qu'est-ce que vous avez fait pour les électeurs, puis qu'est-ce que vous avez fait pour le monde aussi? En quoi le Canada s'est-il illustré sur la scène internationale au cours des 5 dernières années? Et ça va peser dans l'esprit de chacune des délégations.
Or, intéressant. Donc, le résultat du vote du premier tour qui devrait être connu vers 16h cet après-midi. J'invite les gens, Justin Coulon, à aller lire votre texte disponible sur le site Internet Options Politiques qui s'intitule « Le Canada au Conseil de sécurité géopolitique d'un vote ». Une lecture fort intéressante. Donc, Justin Coulon, je rappelle, vous êtes chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal et auteur du livre « À quoi sert le Conseil de sécurité des Nations unies ». Ce que vous nous avez bien expliqué. Merci beaucoup, Monsieur Coulon.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Vous écoutez
Franchement dit.
C'est notre dernière de la saison avec mon ami l'historien Denis Anger que je retrouve avec grand plaisir. Salut Denis.
Allô Jonathan. C'est tout, mais c'est la vie.
Ben oui, voilà. Et on aura l'occasion, je suis certain, de se reparler après la période estivale. Écoute, j'ai vraiment hâte de voir où tu t'en vas avec ce sujet-là, parce que d'habitude, des fois, c'est bien précis. Là, on va parler de tel événement historique, etc. Mais là, il y a toute la question du racisme systémique qui est dans l'air. C'est ce que tu vas aborder. J'ai bien hâte de voir quel chemin tu vas nous faire prendre aujourd'hui.
Ben, j'ai presque changé d'idée tout à l'heure. Je lisais une entrevue de Michael Jean, l'ancien gouverneur général, secrétaire de la francophonie, qui disait que oui, c'était systémique au Canada, le racisme. Ben, Jonathan, je pense qu'avant de parler de racisme systémique ou pas, on doit essayer de voir c'est quoi systémique. Ça vient du mot système, donc le racisme érigé en système. Donc, pour qu'il y ait un système, il faut qu'il y ait un cadre, hein, faut qu'il y ait des protocoles, faut qu'il y ait une organisation, faut qu'il y ait une application, il faut vraiment quelque chose de systématique. Or, lorsqu'on parle du Québec et du Canada, je pense pas qu'on puisse parler de racisme systémique à l'endroit notamment des Québécois qui sont d'origine africaine, hein, la population noire. Il n'y a pas de système ici, ni même au Canada, qui peut ressembler à de grands systèmes qu'on a connus dans le passé. Par exemple, l'esclavage, c'était érigé en système. La dernière fois qu'on a eu du racisme systémique, c'était en Nouvelle-France, vers 1890. Le roi de France, qui s'appelait Louis XIV, avait décrété ce qu'on appelait le Code noir. C'était un code dans lequel on régissait, bon, les dispositions, les esclaves, leurs droits, les droits qu'ils avaient, les droits qu'ils n'avaient pas. Il faut dire qu'il n'y en avait pas beaucoup de droits à l'époque. Donc ça, c'était systémique. Évidemment, on peut penser aux États-Unis d'Amérique, le régime d'avant la guerre civile américaine, c'est un régime raciste systémique. Donc, vous êtes noir. Il y a même une loi en Virginie qui décrète vers 1680 que un enfant né d'un père blanc et d'une mère noire est considéré comme noir. On dit tout dépend du ventre, le ventre de la mère. Donc, ça fait curieux parce que il y a 50% de blanc là-dedans. Premier système épouvantable, hein, qui est aboli avec, évidemment, la proclamation d'émancipation par Abraham Lincoln. C'est remplacé quelques années après par ce qu'on va appeler la ségrégation raciale. On dit, ça, c'est aussi un système. La ségrégation, c'est, vous dites, les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre. On se souviendra peut-être des images dans le sud des États-Unis, un peu partout dans le monde, white only, hein, les toilettes réservées aux Blancs. Les autres sont pour les personnes de couleur. Ça, c'est ce qu'on appelle la ségrégation. Les écoles noires, les écoles blanches, les hôpitaux noirs, les hôpitaux blancs. Un système qui va être cassé en 1964, à l'époque du président Johnson. On dit non, on ne peut plus faire de ségrégation raciale. Pas rien qu'aux États-Unis, il y en a eu un peu partout à travers le monde, mais on connaît mieux l'exemple américain. C'est remplacer ça par un autre système qu'on appelle la discrimination raciale. Donc, discriminer en raison de ta race, possibilité d'emploi, ouverture, mais il faut que ce soit systémique, il faut que ce soit appliqué selon vraiment un système. On peut penser qu'au Canada, discrimination raciale n'est pas systémique, mais elle existe. Hein. Vous savez, pendant très longtemps, les personnes qui avaient personnes de couleur avaient toujours plus de difficultés à trouver un emploi, à être acceptées, subissaient la discrimination. Elle est encore là aujourd'hui dans certaines catégories. C'est pas généralisé, mais honnêtement, il y a encore des Québécois, des Québécoises aujourd'hui qui sont racistes d'une certaine manière par rapport à nos concitoyens d'origine ethnique différente. Mais c'est pas vraiment systémique. Autre cas, là, ce qu'on appelle les ghettos, on s'en souviendra, ben, par exemple, les Juifs, en Europe, à travers tout le Moyen-Âge jusqu'à récemment, ils étaient parqués dans des ghettos. Un ghetto, c'est un quartier, parfois avec un mur d'enceinte, dont on ne pouvait pas sortir. C'est aussi une forme de racisme systémique. Mais ça n'a pas existé ici. Les ghettos que l'on connaît ici sont plutôt des ghettos volontaires. Donc, les gens arrivent, s'installent dans une communauté, dans un quartier. Je pense notamment à la communauté assidique qui se trouve à Montréal. On en a à Boisbriand, on en a à Outremont. Donc, ils se sont créés un lieu. Mais c'est pas systémique. Donc, je suis sûr d'appliquer le mot systémique au type de racisme que l'on vit ici au Québec et au Canada. Et en ce sens, je pense davantage vers l'interprétation qu'en fait François Legault que dans celle qu'en fait Michaël Jean. Cependant, il y a eu des cas dans notre histoire de la Terre où on a eu ça, du racisme systémique au Canada. Deux exemples. Le premier, les Chinois. Lorsqu'on a construit des grands chemins de fer, hein, oui. On avait le Transcanadien, le Pacifique canadien, on avait besoin de main-d'œuvre. Donc, on a importé de Chine des travailleurs manuels, nombreux, dizaines de milliers, qui sont venus ici. Ben, à leur endroit, il y avait vraiment un racisme systémique. C'est-à-dire que eux, par exemple, ne pouvaient pas se marier, ils ne pouvaient pas amener leur épouse, ils ne pouvaient s'installer, ils ne pouvaient voter. Donc, ils étaient encadrés, c'était précis. Et on avait même ce qu'on appelait une taxe sur la tête. Donc, chaque Chinois qui voulait venir travailler au Canada devait payer une taxe d'admission. Et à l'époque, c'était 100 $. Quand je vous rappelle qu'en 1900, le salaire, c'est 1 $ par jour, ça fait quand même une grosse taxe d'admission. Ça, c'est vraiment un cas de racisme systémique, un système. L'autre cas, et lui, il est plus profond et il fait plus mal. Les Premières Nations sont, depuis la loi des Indiens de Johnny MacDonald, dont la cule de rose les statues par les temps qui courent, ben, c'est un racisme systémique parce que les Amérindiens, les Premières Nations canadiennes, n'ont pas le droit de vote, sont parqués dans des réserves, on a dressé à leur endroit toute une liste de choses d'obligation, hein, et on a même décrété la création des pensionnats des écoles autochtones, on a arraché des enfants à leur famille. Ça, c'est un cas de discrimination systémique. Donc, au Canada, je dirais qu'il y a probablement ça. Pire, bien évidemment, il faut aller en Afrique du Sud avec ce qu'on a appelé l'apartheid. L'apartheid, ouais. C'était non seulement tu ne veux pas aller au même endroit, tu ne travailles pas, même école, même hôpital, mais en plus, tu n'étais même pas un citoyen du pays. On avait créé ce qu'on appelait à l'époque des bantoustans, donc des espèces de des enclaves qui n'étaient pas considérées comme étant dans le territoire de l'Afrique du Sud, donc les gens étaient parqués là-dedans. Évidemment, on les faisait sortir pour travailler dans les mines, travailler comme domestiques, travailler comme petites mains, mais ils devaient rentrer dans leur bantoustan le soir, sous peine d'arrestation et d'incarcération. Donc ça, c'est vraiment du systémique. Ici, moins systémique.
Mais là-dessus, on diverge un peu d'opinion, puis c'est intéressant d'entendre l'avis de l'historien parce que tu soulèves des exemples qui sont frappants, là, tu sais, qui sont très 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 évocateurs, mais en même temps, puis là, je m'en viens vraiment au ras des pâquerettes, là, mais ça fait des années que j'ai moi-même inventé une expression qui dit, tu sais, c'est pas parce que par exemple se faire amputer un bras à froid, ça doit être une douleur indescriptible que de se cogner un orteil sur le bord d'une porte, ça fait pas mal en cibole, tu sais. Donc, je comprends que les exemples que tu donnes, si on parle des Juifs, si on parle de la ségrégation raciale, ce sont des époques qui sont épouvantables, des moments sombres de notre histoire, mais en même temps, tu sais, Denis, toi et moi, on s'est jamais fait interpeller en voiture pour des vérifications aléatoires dont on se demande un peu pourquoi on fait l'objet de ça. Tu sais, on regarde les chiffres en emploi, les gens qui cherchent des loyers, puis on se dit, est-ce que c'est la même chose que l'époque de la ségrégation raciale, bon, par exemple, aux États-Unis? Non, absolument pas. Mais en même temps, y a un problème qui existe et qui, au sein d'un système, semble pratiquement systématiquement ou de façon régulière désavantager les gens qui sont pas des mêmes qui sont des communautés culturelles ou qui ont pas la même couleur de peau que la majorité, par exemple, au Québec. Donc, tu sais, j'ai de la misère à rejeter du revers de la main cette possibilité-là.
Je le répète pas, je dis qu'il existe du racisme. Le profilage racial, par exemple, on l'évoquait, Jonathan. Vous êtes dans le parc à Montréal et vous avez trois fois plus de chances d'être interpellé par les policiers si vous êtes une personne de couleur que si vous êtes un blanc. C'est clair. Vous faites arrêter par une voiture, il y aura une méfiance particulière si vous êtes... Ça, c'est du profilage racial. C'est condamnable, c'est épouvantable, c'est une forme de racisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme au Québec. Il y en a. Il y en a systématiquement. Il y a même... Tu sais, il y a encore des gens qui ont des trois d'esprit... À l'époque, on n'avait même pas le droit de marier. On appelait ça un mariage mixte. Hein. Donc, d'abord, les catholiques ne pouvaient pas marier les protestants. Mais il n'y avait pas de, il n'y avait pas de règles. C'était une tradition. Même chose, lorsque quelqu'un arrivait, un noir, une blanche mariée, ça créait un inconfort. C'est vrai. Mais c'était pas un système. Par exemple, en Caroline du Nord, en 1980, c'est pas, ça fait pas longtemps, là. Il y avait une loi de l'État qui interdisait les mariages entre un noir et une blanche ou vice-versa. Et si vous aviez la chance ou la peine de tomber en amour avec quelqu'un, vous deviez aller vous marier à l'extérieur de l'État sous peine d'être poursuivi et d'acquérir des peines d'emprisonnement. Il y a ici, évidemment, depuis toujours, une méfiance. Hein? C'est de la xénophobie, la crainte de l'étranger. Puis si en plus l'étranger, il est facile à reconnaître parce que la peau est plus foncée, plus cuivrée, plus jaune, plus noire, ben c'est sûr. Mais on peut pas dire que ici, de manière systématique, il y a un encadrement législatif et réglementaire qui dit les blancs d'un côté, les jaunes d'un côté, les rouges par-ci ou les noirs par-là. Il y a évidemment ce vieux fond, ce relent de vieux racisme qui est déplorable, qui est constaté presque tous les jours. Mais on est une des sociétés... car, vous savez, quand les Noirs américains s'enfuyaient de l'esclavage, ils s'en venaient où? Ils venaient au Canada. Déjà, au 19e siècle, il y avait ici un accueil qui était sans commune mesure avec ce qu'ils vivaient là-bas. Donc, ils ne donnent pas un 100%, mais je dis que c'est pas un système. C'est pas réglementé, organisé, ordonnancé avec les textes. Il y a un mauvais fond, il y a un mauvais ralent. Quand vous évoquez l'orteil sur le coin du câble de chaise ou le tibia sur le coin du lit, c'est douloureux, ça existe, mais c'est moins épouvantable que ce que l'on vit encore aujourd'hui dans bien des États à travers le monde.
Je comprends. Il y a une question aussi de définition. Chacun aussi peut avoir ses propres références, sa propre définition. Mais avant qu'on se laisse, je t'amène juste un petit peu ailleurs, mais en connexion, en lien avec ça, est-ce qu'on est capable de qualifier une époque pendant que cette époque-là se déroule? Tu sais, je pense, mettons, à la Révolution tranquille. T'sais, pendant que ça se déroulait, est-ce qu'on était capable de dire, là, on assiste à la Révolution tranquille? Comme, est-ce qu'on est capable de dire, dans notre époque actuelle, on se démarque par, prenons certains éléments, mettons, le racisme systémique ou d'autres. Tu sais, est-ce que, lorsqu'on est dans une époque, on a l'œil trop collé, des fois, sur la vitrine pour être capable de la juger de la même façon qu'on va prendre souvent beaucoup de recul avant d'analyser, tu sais, le bilan, le leg de premier ministre, par exemple, et tout ça?
Oui, vous avez raison. Marc Bloch, qui est un des grands historiens français de tous les temps, Marc Bloch, qui est le fondateur de l'École des Annales, disait qu'on ne peut pas juger une période moins de 50 ans après parce qu'on doit laisser retomber le temps, les conséquences. Vous savez, on a tendance à faire des jugements dans les 24 heures, les 48 heures, les 72. 50 ans, c'est peut-être un peu trop, mais je me souviens, moi, à l'époque, j'étais à la commission de la capitale nationale, j'étais responsable des programmes de commémoration.
Et oui, la toponymie, je me souviens, nous avons déjà entendu parler de ça.
Ben oui, on estimait qu'avant d'honorer quelqu'un, un premier ministre ou une personne importante, il fallait attendre au moins 10 ans. 10 ans, le temps que la poussière retombe, parce que si on tombe dans dans l'émotion, ben on va baptiser le lendemain quelque chose qu'on devra débaptiser le surlendemain parce qu'on réalise que ça n'a pas de bon sens. Donc moi, j'ai tendance à dire, se hâter lentement, prendre son temps. Avant de faire une affirmation disant que les Québécois sont systématiquement racistes, je trouve que c'est une affirmation qui est beaucoup liée à l'émotion du contexte ambiant. Il ne faut pas que le contexte fasse oublier qu'au-delà de ça, il y a la conjoncture, puis plus loin encore, il y a la structure. Or, un système structurant raciste, ça, c'est l'apartheid, c'est la discrimination américaine, c'est la ségrégation, c'est le racisme, c'est la ghettoisation en Europe. C'est pas les profilages, les inconforts, le manque d'éducation. Vous savez, les corps policiers devraient, et ça, l'exemple américain, il est probant, il est frappant. Là, ils sont considérés non pas comme des protecteurs, mais comme des guerriers à l'endroit des communautés culturelles identifiables. Il y a tout un chemin à faire avec ça. Mais ici encore, je voudrais que les policiers sont moins épouvantables que ce qu'on voit au sud de la frontière. J'ai pas encore vu au Québec un jeune noir qui était étouffé pendant 8 minutes et 46 secondes par un policier blanc. Heureusement, j'espère qu'on verra ça jamais de notre vie.
Assurément. Denis, écoute, ça a été un plaisir encore une fois cette saison-ci d'échanger avec toi. Je te souhaite une merveilleuse période estivale et au plaisir de se reparler au retour des vacances.
À toi et au tien, Jonathan, plein de plaisir, plein de découvertes, bon déconfinement, on redécouvre le Québec, puis on te dit à la revoyure, hein?
À revoyure, cher Denis, salut!
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
On va faire le tour de l'actualité avec Maude. Tout d'abord, commencer par le bilan du jour qui vient tout juste d'être publié.
Oui, on parle d'un décompte, en fait, de 29 nouveaux décès, 117 cas supplémentaires. Puis je voyais tout à l'heure, on a passé un tweet de Diane Lamar, qui est pharmacienne, que vous voyez souvent à LCN, qui disait là, que c'est la contamination, c'est pas mal rendu très, très communautaire.
Ah oui?
Selon les chiffres, oui, selon les chiffres qu'elle partageait. Il faudrait que je retrouve le tweet, là, mais je la trouve très intéressante et très pertinente, par ailleurs, à LCN. Très bonne vulgarisatrice.
Mais il me semble, ça fait plusieurs jours qu'on nous dit qu'il n'y a pas vraiment eu de contamination communautaire soutenue.
Car j'ai les chiffres devant moi. Là. Donc, le 12 juin, on parlait de 158 nouveaux cas. 13 seulement étaient en CHSLD, 4 en RPA, donc 141 en communauté. Le 13, on parle sur les 128 nouveaux cas, seulement 3 en CHSLD, et le reste étant en communauté. Puis le 14...
OK, je comprends.
Un en CHSLD seulement, tu sais, sur les nouveaux
cas. Je comprends.
Cas.
Mais Dr Arruda, qui lui va sûrement dire que lorsqu'il parle de contamination communautaire, il va parler de contamination communautaire soutenue. Donc, à une centaine de cas détectés, tu sais, oui, je comprends ce que Diane Amand veut dire. C'est dans la communauté, non pas, par exemple, dans les établissements de santé.
Non, c'est ça.
Mais il n'y a pas de l'air, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas un effet d'éclosion là, marqué, si on veut. Les chiffres qui se maintiennent. OK, bon. Sinon, nouvelle qui était fort attendue, des annonces faites par, justement, le docteur Arruda et la ministre responsable des sports, Isabelle Charest.
Il y a des enfants, il y a des parents qui vont être très, très, très contents. Ça se passe rapidement, c'est le 22 juin, donc lundi, les infrastructures sportives intérieures. Donc, on parle des centres de conditionnement physique, les arénas, les plateaux de gymnastique. Je pense aussi aux studios de danse, par exemple. Ça va être ouvert. Les plages publiques et privées. On donne le go. Les matchs de sport collectif vont pouvoir recommencer. La formation des sauveteurs aussi pour les plages va pouvoir débuter. Là, c'était déjà le cas pour la formation des sauveteurs pour ce qui est des plans d'eau, là, mais des piscines, en fait. Mais pas pour ceux-là. Ce qui reste interdit, c'est les sports de combat jusqu'à nouvel ordre. Les combats, les prises sont interdites, mais pas l'entraînement. Donc, on comprend qu'on évite la proximité. Dans tout ça, les directives de la santé publique vont devoir être respectées, distanciation sociale et tout. On a posé la question au docteur Arruda puis à la ministre Isabelle Charest. Tu sais, par rapport à durant un match, comment ça va se passer, mettons que tu joues au hockey. On dit que le contact direct, il ne faudrait pas que ce soit plus de 15 minutes. Mais les contacts accidentels et sporadiques, ce serait permis durant les matchs. aussi pour ce qui est des masques, des visières. Est-ce qu'on va devoir en porter? On parle pas de masques. C'est pas recommandé parce que ça diminue l'oxygénation, donc pas besoin d'en porter. Pour ce qui est des visières, on va évaluer. Ça reste à voir. Ce qu'on dit... Oui, vas-y.
Excuse-moi, là, j'ai accroché sur un élément que tu as mentionné. C'est quoi un contact soutenu de 15 minutes à part une lutte de saut du temps sumo? Là,
à moins
un
que tu restes
contact soutenu de 15 minutes dans un sport.
À moins que tu restes en face à face pendant 15 minutes à te respirer dans la face.
Sérieux, je le vois pas. Je le vois pas parce que
tu sais. Elle expliquait aussi, puis c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais je pense que c'était. Faut pas que ça fasse 15 minutes accumulées non plus. Fait que tu sais, tu peux pas faire, admettons, tu fais une colle à quelqu'un, c'est pas plus que 2 minutes, puis là 2 minutes, puis là deux, jusqu'à temps que ça fasse 15. Genre. Mais retenez que.
Tu sais, souvent, tu vas voir, là, entre autres au soccer, là, l'arbitre a tout le temps son petit carnet. Parce qu'il prend en note le temps qui a été perdu pour le rajouter à la fin du cadre. Ce que j'ai jamais compris. Là, une game de soccer, c'est pas un temps prédéfini. Là, c'est selon le jugement de l'arbitre avec le temps qui a été perdu. Mais là, il va avoir comme un autre carnet où il va évaluer les contacts physiques, la durée. Oh!
Attends, le 11 puis le 15.
Je fouille-moi pourquoi je le fais à la française, excuse-moi. Je sais, là, mais... Oh, attends, là, le 17, le 18. Le 17 et le 21, là. Oh, là, ça, c'est 5, 6, 7. Là, on est rendu à 8 secondes, là, de contact. Et là, j'ajoute ça au contact précédent. On est rendu à 47 secondes. Oh, attention, là, les mecs.
Ça m'étonnerait que ça se passe de même.
Mais... Il va ajouter. Mais non, ça se peut pas, là.
Mais oui,
mais je vois, j'imagine ça doit viser comme la MMA.
On était pas mal questionnés sur les matchs de hockey, de volleyball, tu sais, ce genre de trucs.
Mais les matchs de hockey, il y a des. Parce que moi, je lisais ce matin, puis je me disais, bon, j'avais lu 3 secondes de contact accidentel. Fait que là, je me disais, ben, ça va peut-être changer que lorsque deux joueurs se battent pour la puck dans le coin. Au bout de trois secondes, l'arbitre va faire frut, va siffler, on reprend le jeu. Plutôt que des fois, ça dure là, 20-30 secondes, puis ça mène à rien. Là.
Ça rentre dans contact accidentel et sporadique, j'imagine.
C'est ça. OK. Bon.
On disait en fait que le autour, les alentours, ce serait ça qui serait le plus à surveiller plutôt que la technicalité des matchs, comme on vient de se jaser. Donc, les joueurs sur le banc, la bonne distanciation, le contact avec l'entraîneur, aussi les spectateurs dans les estrades, s'assurer qu'on respecte le bon 2 mètres ou le 1 mètre ou le 1,5 ou en tout cas, on est mêlés. Les vestiaires, ça a peut-être l'air un peu niaiseux, mais on lui a posé la question au docteur Arruda. Qu'est-ce qu'on fait avec les vestiaires? On peut l'écouter.
Les vestiaires ne sont pas interdits, mais on va devoir avoir des distanciations adéquates. Donc, il risque d'avoir moins de vestiaires de disponibles. Donc, si vous pouvez partir avec votre vêtement de sport de la maison et puis ne pas avoir à utiliser le vestiaire, ben ça va déjà permettre à quelqu'un d'autre qui ne peut pas, pour toutes sortes de raisons, le faire. Puis, si vous pouvez, après ça aussi, prendre votre douche à la maison en revenant, ça va moins avoir d'impact sur les unités sanitaires.
Ça va sentir les petits oui-oui. Ça va sentir les petits oui-oui. Parce que là, tu sais, il y a la notion du vestiaire, mettons, sportif, là, où tu changes ou quoi que ce soit. Si t'es capable d'arriver avec tes shorts et ta camisole, vas-y. Mais, tu sais, dans les sports, moi, je pense, par exemple, dans le hockey mineur, là, écoute, les jeunes sont cordés dans sont détrempés, mais ils sont assis un par-dessus l'autre dans les chambres tellement. Des fois, même, ils demandent aux parents, rendus un certain âge, rentrez pas dans la chambre. Il y a trop de monde. Fait que là, tu sais, au hockey, vont-tu nous dire, ben, arrivez avec votre équipement le plus possible? Tu sais, moi, mon gars, quand il y a des pratiques à 6h, 7h le matin, je l'habille à la maison, il y aurait juste les patins à mettre rendus là pour se garder du temps, mais lorsqu'il y a des parties, ils doivent arriver 45 minutes d'avance parce que ils veulent que les joueurs soient ensemble, faire un plan de match, faire des échauffements, s'habiller, tout ça. Là, est-ce que ça va être revu? C'est un compromis tout à fait acceptable, je suis pas en train de le dénoncer, mais j'ai hâte de voir comment on va gérer ça. Est-ce qu'ils vont ouvrir plus de chambres pour les joueurs?
On va y aller par plus petits groupes peut-être, je sais pas. Puis j'évoquais les règles de distanciation. Comme quoi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, on est un peu mêlés, va-tu falloir traîner notre galon à mesurer? Mm-hmm. On a questionné le docteur Arruda là-dessus, on peut écouter sa réponse.
C'est clair qu'il fallait absolument aller à 1 mètre pour les enfants, puis même à moins que ça, peut-être éventuellement avec les bulles, puis ça, c'est compliqué. Puis ça va être géré, je vous dirais, par le milieu scolaire, par les camps de jour, par les établissements, par les employés et les gens de ces milieux-là. Le 1.5, ça va être géré par les théâtres. Dans le fond, vous allez arriver dans le théâtre, il va y avoir des bancs, vous pouvez pas vous asseoir, puis vous allez vous retrouver avec des bancs de 3 personnes, après ça, des bancs. Fait que dans le fond, ça, ça va être géré par ça. Le message pour le monde, là, s'ils veulent être bien simples, c'est 2 mètres. C'est pas compliqué, c'est 2 mètres.
Fait que le monde va vous gérer, puis vous gérez-vous, vous gardez 2 mètres. C'est les gens vont vous gérer. Vous aurez pas besoin de vous gérer.
Non, c'est ça. Je pense que c'est ce que je disais un peu plus tôt cette semaine. À un moment donné, toutes ces règles-là vont établir une espèce d'organisation sociale de gros bon sens, mm-hmm. où il y en a qui vont exagérer, il y en a qui vont être... Mon Dieu.
J'aimerais pouvoir
tu cherches un mot. Il y en a qui vont... qui vont avoir des lacunes dans leur application. Hey, je cherche vraiment un mot. C'est pas, ça me gosse.
Oui,
mais... je reviens juste un instant, là. Bravo à Frédéric McCall. Donc, c'était l'anniversaire hier. Je voulais dire à la fin du show, on a comme eu un problème technique à la fin du show. Je lui ai écrit par la suite pour lui dire, mais quand même, bonne fête en retard, Fred. Dans les cas où, mettons, au hockey, là, t'as un joueur qui est désigné pour être d'un short de l'autre. Tu sais, un joueur défensif qui va marquer un joueur offensif. Au soccer aussi, t'as ça. C'est peut-être là qu'il va falloir comptabiliser le temps qui passe.
Peut-être.
Mais non, ça n'a pas de bon sens.
On vient ça de tes bords, mais non.
Hey, toi, je te check, là, depuis la première période que tu suis le petit numéro 13, là. Fait trop longtemps, là. Lâche-moi ça, j'ai comptabilisé ça, puis bout à bout, t'approches le 15 minutes. Vraiment du fun avec cette notion-là.
Ça va peut-être créer des nouveaux emplois, tu sais, vu que l'arbitre, il y a d'autres choses, d'autres chats à fouetter.
Ici, bon, il va y avoir plus d'arbitres que de joueurs. OK.
Oui.
Prime dans les épiceries. Ça fait jaser, ça. Oui. Bien les épiceries qui retirent la prime COVID. Ah, oui.
Un tout petit dernière heure, là. Justin Trudeau qui annonce la mise à jour économique pour le 8 juillet.
Ah.
Ah, ben, Colin.
8 juillet, on va savoir à quel point on est dans la schnoutise.
Oui. Parlons
fédéral. OK. 8 juillet, donc, la mise à jour économique. Mais donc, les primes dans les épiceries, de ce que je comprends, tu vas nous l'expliquer, il y a des gens qui les retirent, mais. C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi se poser la question pendant combien de temps qu'on maintient toutes ces sets de primes-là là, à gauche et à droite. Là.
Exactement. En fait, les grands patrons des chaînes d'épiceries canadiennes ont, en l'espace de 24 heures, pas mal toutes les épiceries propriétaires des bannières Métro, Métro Super C, Adonis, Jean Coutu, L'Aubla, qui regroupe Maxi, Provigo, Pharmaprix, Empire, c'est IGA et Rachel Berry, ont annoncé que, bing bang, nous autres, la prime de 2 piastres qui a été mise en place au début de la pandémie, ce sera la fin. Eh bien, il y a les parlementaires qui, suite à l'abolition complètement subite de cette prime-là, disent, ben vous allez devoir rendre des comptes, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez pris cette décision-là maintenant? Il y a un député libéral qui a proposé de convoquer les représentants de ces entreprises-là pour qu'ils s'expliquent. C'est le député libéral torontois Nathaniel Erskine-Smith.
Aïe, aïe, c'est comme une hésitation, hein?
Tu sais, ils nous disent à l'école, tu sais, quand vous voyez un nom que vous connaissez pas, tu sais, prononcez-le avant, mettons pas pour la première fois quand vous allez en onde, ben je l'ai pas fait. C'est ça que ça donne. Donc, Monsieur Nathaniel, appelons-le comme ça, il a rappelé qu'il y a plusieurs Canadiens qui peinent toujours à joindre les deux bouts à l'heure actuelle. Puis, ces travailleurs-là ont souvent mis leur santé dans les derniers temps à risque pour que tout le monde puisse se nourrir, puisse aller à l'épicerie. Les profits de la plupart des grandes chaînes d'épicerie, en plus, ont augmenté. Arrête de me rire d'en face, les chiens.
Je me dis que toi aussi, t'avais de la misère à joindre les deux bouts de son nom de famille. Excuse-moi, c'était ça que j'avais.
Oui, c'est exactement ça. J'ai eu de la. Oui.
Bravo pour ta revisitation du Touloum-tich, hein? Touloum-tchi-tchi-tchi.
J'aurais pu faire des piou-piou-piou. Fait que veux-tu continuer à parler des primes ou bien?
Ouais, vas-y. Je te suis. Je suis là. Je suis là.
Moi, je me suis plus. Je suis rendue où? Oui, fait qu'on a enlevé la prime, mais pendant tout ce temps-là, les chaînes d'épicerie, leurs profits ont augmenté hein, depuis le début du confinement, sans bon sens. Donc. Je suis plus capable. Il va y avoir une motion qui va être débattue demain au comité de l'innovation, des sciences et des technologies, trois choses. On s'attend à ce que ce soit adopté parce qu'on a l'appui des députés du Parti conservateur et du NPD. Et il y a Alexandre Poulris qui a dit « Couper le bonnet de 2$, je trouve ça cheap en tabarouette. »
OK, il faudrait dire au député Nathan Schkerker.
Je peux te le dire si tu veux. Nathaniel Erskine-Smith.
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 Qui, oui, lui, se demande pourquoi là, les épiciers ont fait ça. Ben, moi, je vais lui répondre au député. C'est que les épiciers, c'est pas le gouvernement fédéral libéral qui peut dépenser sans compter de l'argent qu'il n'a pas. Et endetté, tu sais, en se disant les générations futures, on s'en sac, ils seront prêts avec la dette, puis ils rembourseront. Tu sais, c'est pas à banque à Tijou Violon, là, les épiciers. Je comprends qu'ils font des bonnes affaires, là, mais les dépenses supplémentaires, il y en a eu en tabarouette. Puis c'est parce qu'à un moment donné, moi, je le réitère, là, les primes, à bien des égards, particulièrement dans le milieu de la santé, mais dans les épiceries, au moment où à peu près personne ne voulait rester chez eux, et que les seules sorties qui s'autorisaient, c'était d'aller à l'épicerie parce que, un moment donné, il faut bien que tu ailles t'acheter de la bouffe puis que tu chassais le papier de toilette. Ces gens-là, ils devaient être là, ils devaient être au poste. C'était normal qu'on leur donne une rétribution supplémentaire. Mais là, un moment donné, il devra avoir un bout à ça, là. Tu sais, comme il devra avoir un bout à la PCU, Justin Trudeau le comprend pas. Mais là, les épiciers, je compte, 2$ de l'heure de plus par employé. Avec davantage d'employés à engager, l'équipement de protection, tu sais, c'est un moment donné, là. Vraiment, là, on va les convoquer devant un comité parlementaire, alors que là, on vient de renouveler la PCU pour 8 semaines de plus, des dizaines de milliards de plus que ça va coûter. On est rendu à quoi, 70 milliards? On se fait frauder. Il y a du monde qui ne vont pas travailler. Les entrepreneurs hurlent que ça leur nuit. Ça, c'est pas grave, on va dépenser. Mais l'épicier, lui, qui dit, tu sais, là, un moment donné, le 2$, va falloir qu'il y ait un bout de ça, eux autres, c'est pas correct. Tu sais, sérieusement, là, vous pouvez pas utiliser votre temps de façon plus pertinente que ça? Hein? Bon, tu vois, ça m'a fait du bien, ça m'a remis...
oui, méchant qui se tente.
Écoute, tu veux-tu finir avec une dernière nouvelle, tiens?
On est tellement pas obligés.
On n'est pas obligé.
Mais on peut y aller.
On va se garder ça pour la fin.
Parce que quand même, on peut.
Oui?
Ah oui.
Bon, vas-y, on est en retard, mais 2-3 minutes de plus, qu'est-ce que ça fait?
Tantôt, on a du lousse, là. Tantôt, on s'est ramassé avec un lousse de 22 minutes, là. Qu'est-ce que tu veux? Rien. C'était pas pire.
On est décimés en tabarouette.
Hein? On est comment?
On est dissipés. Décimés. T'as l'impression qu'on est en train de mourir un peu, là.
Allez, on va partir en pause,
je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon vocabulaire, mais...
Puis le mien non plus, ça... Ouais, c'est ça.
On est dissipés, c'est ça que je cherchais. C'est pas grave, je le sais, il y a plein de monde qui sont crampés à nous écouter.
Ben oui.
Il y en a 3-4 qui ont dit, mon Dieu, ils sont pas sérieux, je change de poste, mais tant mieux. Nous autres, on a du fun.
OK,
participation.
Oui, participation, on sortit la
plus... Oh, attends, écoute, c'est... notre prochaine invité a une contrainte de temps. Fait que, regarde, on va faire une pause. On se garde la nouvelle sur participation pour plus tard dans l'émission. On va reprendre notre souffle, notre sérieux. Oui. On fait une pause, puis on revient. Bougez pas.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchand d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5$ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Franchement dit.
Jonathan Trudeau.
Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1-877-827-2346. Cube Radio. Cube Radio.
Alors, le gouvernement caquiste de François Legault qui veut créer une identité numérique unique pour chaque Québécois. On parle d'un projet très ambitieux. On en a discuté en début d'émission qui soulève plusieurs interrogations parce que semble-t-il qu'on serait les premiers dans le monde à aller de l'avant avec un projet de la sorte. On parle potentiellement de milliards de dollars de fonds publics. Et ça, c'est avant les dépassements de coûts et les retards, là. Ça soulève quand même toutes sortes de questions. Oui, évidemment, sur la faisabilité du projet, les sommes et tout ça, mais entre autres sur les questions de sécurité. On va en discuter avec Damien Bancal, avec qui on a eu le plaisir de discuter à plusieurs reprises, qui est directeur du pôle de la cyberintelligence chez 8Brains. On le rejoint au téléphone. Bonjour, Damien.
Bonjour.
Dites-moi, vos premières impressions, là, avoir un projet comme celui-là, d'un, est-ce que dans le milieu, vous aviez entendu dire que ça se tramait, est-ce que c'était un secret de polichinelle et comment vous l'accueillez?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est un projet qui est réfléchi de longue date. On retrouve des informations, voire même des propos sur différents sites de ministères, mais aussi d'entités, qu'elles soient associatives ou privées, parlant déjà de cette possibilité de gouvernance numérique, de cette identité numérique. Parce que c'est, je vais être très honnête avec vous, dans toutes les têtes, sur toute la planète. Je prends juste un exemple, hein. Au Japon, il y a une grosse société qui a déjà mis en place depuis juillet 2019 un système de gestion des identités numériques via ce fameux blockchain, hein, qui est un terme qui fait peur ou qu'on comprend pas trop. Donc ça sera pas une nouveauté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est réfléchi depuis très longtemps. Donc au moins de ce point de vue-là, ça me rassure.
OK, mais donc, est-ce que c'est vrai qu'on serait les premiers? Parce que là, vous vous dites que, bon, au Japon, il y a certaines mesures déjà qui existent. Selon là, les critères du projet que le gouvernement veut mettre en place, est-ce qu'effectivement, ce serait une première? Ou quand on pense justement à des endroits où on exerce un bon contrôle là, sur la vie citoyenne, en Chine, par exemple, est-ce que vraiment, dans ces endroits-là, on n'a pas encore des projets comme ceux-là qui ont été mis en place?
Ah bah c'est simple, hein. Dans tous les cas, ce suivi numérique de chaque citoyen existe dans des pays, par exemple, totalitaires, qu'on le veuille ou non, comme la Chine, hein, qui clairement a un numéro social avec des droits, etc., ou pas. Mais après, sous la forme qui est proposée là, en tout cas de ce qu'on peut en lire, de ce qu'on peut en entendre, de ce que j'ai pu, par exemple, analyser en regardant juste sur le site de Cube Radio, hein, on voit un petit peu ce qui est dit. Ça réfléchit. On comprend bien que on a une idée qu'on lance en l'air et puis maintenant il va falloir tirer sur chaque petite ficelle pour voir comment on va pouvoir identifier chaque citoyen, comment avec cette fameuse blockchain, donc c'est le moyen de rendre identifiable tout en l'anonymisant, tout en sécurisant la donnée. Donc autant dire, ça va être un NAS 3.0, hein, soyons très clairs sur le sujet. Maintenant, ouais. Il va falloir sécuriser ça. Il va falloir éduquer aussi parce qu'il faut pas oublier, hein. Je prends juste l'exemple des banques qui utilisent elles déjà ce genre de système, certes moins grande taille, mais qui existe déjà, la sécurisation par la donnée numérique. Il va falloir éduquer l'utilisateur. Parce que c'est bien beau d'avoir cette identité numérique. Mais si mon utilisateur est capable de le fournir par n'importe quel moyen et que ce moyen puisse être détourné, eh bien, est-ce que j'aurai toujours confiance en la donnée qui va être sauvegardée? Mon nom, mon prénom, mon adresse, plus toutes les informations qui seront cachées dans cette chaîne qui, normalement, n'est pas capable de m'identifier directement. C'est compliqué, hein? Je vais être très honnête avec vous.
Je vais vouloir qu'on parle, Damien, de la chaîne de blocs du blockchain dans quelques instants, mais juste avant, sur la pertinence du projet, je comprends qu'il y a des gens qui vont dire ben ça soulève des questions au niveau de la protection des données, du droit à la vie privée, etc., mais en même temps, je me dis, oui, on peut être cynique là, par rapport à la capacité, ou sceptique par rapport à la capacité du Québec de mettre de l'avant des projets comme celui-là, mais en même temps, ça semble être effectivement l'avenir. Ça semble être incontournable qu'à un moment donné, on s'en va être avec notre pouce, avec nos yeux, avec notre voix, qu'on va pouvoir avoir accès à tous nos services. Vous disiez le NAS, notre numéro d'assurance sociale, nouveau genre. Il reste qu'il y a une pertinence là, dans cette idée-là, dans ce concept-là.
Non, mais je vais être très clair avec vous. Je trouve cette idée excellente parce qu'elle fait partie de demain, même d'aujourd'hui, de l'avenir, oui. En tout cas de nos identités, de la protection de mon identité. Moi, je serais beaucoup plus rassuré ici quand je pourrais fournir un code qu'un policier, par exemple, lors d'un contrôle ou de ma banque lors d'une acceptation d'un dossier, d'un contrat, ne verra pas toute ma vie parce que je lui fournis mon NAS ou je lui fournis ma pièce d'identité, mais cette blockchain, ce fameux code dira, OK, il a un bon niveau crédit, OK, il a payé toutes ses amendes s'il a eu des amendes. Voilà, sans être obligé d'étaler l'intégralité de ma vie, qu'elle soit numérique ou de papier, parce que ça peut être détourné, ça peut être usurpé, ça peut être réutilisé, ça va être très compliqué. Il suffit juste de regarder tout ce qui a été dit, fait et tenté de contrôler avec les applications Covid. Alors imaginez avec le numérique dédié à 100% à nos vies numériques.
Parlons maintenant, Damien, de la fameuse chaîne de blocs. Peut-être si on est capable je sais que c'est complexe, mais de l'expliquer, de vulgariser un peu pour nos auditeurs et en quoi ça pourrait sécuriser, rassurer les gens qui assurément craindraient pour notre vulnérabilité, là, la possibilité, par exemple, des pirates informatiques réussissent à prendre possession de nos données personnelles.
Alors, je vais faire simple. On va se dire, j'ai un numéro de NAS. Trois chiffres, trois lettres, trois chiffres. Eh bien, la blockchain va, par exemple, transformer cet identifiant unique en nombre de signes, chiffres, lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui donc, si la personne a dans ses mains le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, n'a pas mon NAS directement. Mais elle sait que je m'appelle Damien Bancal, que je vis à Montréal, etc., etc. Mais c'est intéressant aussi parce que ce numéro de blockchain permettra de valider, par exemple, une signature numérique quand je vais payer mes impôts, quand je vais aller chercher ma pièce d'identité, par exemple, pour mon permis de conduire. Donc, c'est vraiment très pertinent parce que ça va sécuriser et mes données personnelles, ma vie, ma famille, mon travail, voilà. Mais ça va aussi rassurer l'interlocuteur qui sera mon banquier, qui sera, par exemple, une association qui va permettre, en demandant au gouvernement, est-ce que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eh bien, monsieur Damien Bancal, est-il fiable? Et voilà. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Petit bémol quand même, ça veut dire qu'il va falloir centraliser tout ça. Et centraliser tout ça dans les mains d'un gouvernement. Heureusement, ici, on est dans un lieu où la liberté existe. Après, on a vu ce qui s'est passé dans des pays où là, il n'y a pas du tout de démocratie. Donc, je suis quand même rassuré sur l'aspect. On a des gens qui essayent de faire avancer des choses. Certes, ce sont des politiques. Certes, ça annonce beaucoup de chiffres. Ça annonce aussi beaucoup de travail.
Ça va être intéressant de suivre ça, d'entendre également le ministre Éric Kerr expliquer son projet. Damien Bancal, donc, vous êtes directeur du pôle de la cyberintelligence chez 8brains. Merci beaucoup de nous avoir parlé, c'est toujours un plaisir.
Merci, au revoir.
Merci à vous. Maud, je trouve sincèrement, là, au-delà du cynisme dont on a fait preuve en début d'émission, le saint cynisme et saint scepticisme, il y a quelque chose effectivement d'absolument pertinent là-dedans. T'sais, je veux dire, c'est vrai que c'est la technologie, elle est omniprésente. On reculera pas là. Ça va aller en avançant et je pense que ça passe par la capacité d'un gouvernement aussi à être à la page. Là. Est-ce que c'est la première chose qu'on devrait faire? Je le sais pas. Mais qu'on pense à ça, qu'on veuille s'équiper en la matière, je pense qu'on doit pas être réfractaire à ça. Moi, je pense, là-dessus, j'insiste.
Surtout si on chiale sur le fait qu'on a encore des fax, par exemple, puis qu'on veut que ça... Tu sais, on se dit, bon, il me semble que tout le monde est rendu ailleurs, sauf nous. C'est un grand pas de très grand géant, ce qu'on tente de faire avec l'identité numérique, mais c'est pas fou. Puis il y a probablement bien d'autres gens dans le monde qui pensent à faire ce virage-là aussi, puis qui travaillent sur des concepts, puis des projets, puis des lois, puis c'est juste que nous autres, ben on l'a annoncé là maintenant, puis on espère. Moi, je me croise tellement les doigts pour que ça fonctionne. Ça serait fantastique, là.
Absolument. Hey, imagine, là, t'as plus besoin d'avoir ton permis de conduire, ta carte d'assurance sociale, quoi que ce soit.
Quand t'oublies ta sacoche, toi.
Un doigt, un œil. Mais là, est-ce que vraiment on assisterait à des épisodes où quelqu'un peut se faire chopper un doigt? Ou enlever un œil? Là, il faudra que le doigt soit maintenu à une telle température parce qu'il faut qu'il soit quand même assez chaud lorsqu'il touche.
Oui, il n'y aura rien de louche quand tu vas sacrer le doigt sur le petit appareil quand le policier va demander votre doigt, monsieur.
Hey, parlant de... Je fais juste un aparté, là, mais parlant de vol et de choses qu'on voit dans les films, t'as-tu vu hier la nouvelle sur le vol de lingots d'argent?
Ben oui.
C'est vraiment, vraiment hot. 20 millions en lingots d'argent. Pas des lingots d'or,
non,
mais des lingots d'argent qui valent 20-30 000 piastres du lingot, je pense. Là.
Oui, ça fait beaucoup.
Et les voleurs sont rentrés à la salle. Ouais. C'était sur des palettes. Ils ont pris un jigger ou un lift, là.
Ah ouais,
un chariot élévateur. Là, ils sont arrivés à avoir tout le
temps. Qu'est-ce qu'il vient de dire?
Un chariot élévateur. Quoi?
J'ai compris, charger les moteurs.
Chariot élévateur.
Ah ouais.
Tu sais, j'avais mes licences de conducteur de chariot élévateur.
Ah oui, hein?
Ah oui, quand j'étais jeune, j'étais tout un conducteur de lift. C'était tellement le fun de chauffer un lift. Voilà.
Une passion comme une autre.
Ça me rappelle des bons souvenirs.
Oui.
Mais ils sont rentrés là et disaient « Ouais, tu sais que nous autres, on a les papiers, là, on s'en vient chercher tes palettes de lingots, là. C'est nous autres qui part avec ça. » Il a dit « Pas de problème, c'est bon, ouais, c'est correct ces papiers-là. » Ils sont partis avec 20 millions.
Oui. Chaque barre pèse 30 kilogrammes. Environ 20 000 piastres par partie de barre, là.
Puis eux 10 autres, millions, excuse la valeur, j'ai dit 20, 10 millions.
Oui, 10 millions, puis tu sais, il faut que tu saches quoi faire. Il faut pas que ce soit nécessairement la première fois que tu essaies ça. Il faut que tu y aies pensé en maudit. Puis ce qui est le fun avec un lingot, là, c'est que ça laisse pas de traces. C'est ça qu'explique Paul Laurier, qui est un ex-enquêteur au crime informatique de la Sûreté du Québec. Ça laisse pas de traces. Tu peux en disposer sur le marché, là, tu donnes ça à des bijoutiers, tu fais des transactions en Bitcoin, ça ne laisse aucune trace. T'es juste pogné avec ça chez vous dans le sous-sol, là, mais tu sais, c'est ce qu'on doit faire.
Ça existe vraiment, là. Non, mais c'est ça.
C'est pas juste un film, c'est ça.
Ça existe vraiment. Ouais. Lingot d'argent, lingot d'or, quelqu'un qui met sur pied un plan pour les voler.
Écoute, ça, la carte de
parce que quand tu sors de la bâtisse, là,
ouais.
Tu peux pas te sauver en courant. Là. Non, faut que ton plan ait été suffisamment efficace pour que la personne, 30 secondes après, pas un doute, puis elle sort dehors en courant parce que faut que tu mettes ça dans un camion ou quelque chose. Là, tu transportes pas ça comme tu veux.
As-tu écouté,
une fonderie peut-être chez vous.
As-tu écouté La Casa des Papels?
Ben oui, tu fais des petites granules. Là.
La Casa des Papels, eux autres, ils sortent ça, toi, en scaphandre. Ils font fondre ça, font des petites billes. Ben oui. C'est beau, beau, beau.
Ouais, voilà. Alors, les enjeux de sécurité autour de ce projet informatique, ça va faire parler si on est capable de voler des lingots d'or. Pouvons-nous voler nos données telles que protégées par le cerbère Éric Kerr? Je nous sens très fragile, monde.
Ça va être fragile dans ma chronique. Oh,
mais pas t'écœurer, mon retour de la pause, c'est toi qui as le poc avec ta chronique. Oui. On va voir ce que ça va donner. Bougez pas, rien.
Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines.
Vous écoutez
Franchement dit.
Oh, mon fiel amour, fiel amour.
Bon, qui commence comme à chaque semaine sa chronique avec une chanson. Qu'est-ce qu'on écoute? Je me sens vraiment comme Guillaume Lepage qui demande à...
Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'on boit?
C'est quoi dans son nom?
Qu'est-ce
qu'on
écoute? Non,
oh,
c'est pas Manon.
Non, ça m'énerve.
Mon
ouf.
Dieu. Réussissant de plateau de tout le monde en parle. C'est... France?
Mais non, c'est Manon.
Manon, c'est celle qui est en régie. Manon pèse sur le piton, c'est celle qui est en régie. Peu importe.
Bref.
Mais je me sens comme ça. Maude, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui, cette semaine, Maude?
Alors, on écoute un grand cru d'une année passée dont je ne me rappelle. Je pense que c'est 2017, en fait. Donc, c'est Free Animal de Foreign Air. C'est pas nouveau comme chanson, mais j'ai écouté une série sur Netflix qui est justement du gars, tu sais, vu qu'on vient de parler de La Casa des Papels. C'est le même gars qui a écrit la série White Lines, que je vous recommande chaudement sur Netflix. Et il y a une playlist assez éclectique pour cette série-là. On mise beaucoup, beaucoup sur la musique parce que ça se passe à Ibiza. Et ben vous comprendrez, il y a beaucoup de techno, mais il y a aussi des sons le fun comme Free Animal. Fait que ça m'a redonné le goût de l'ajouter à ma liste de lecture. Je vous la recommande.
Très bon.
Oui, c'est
très
bon. C'est le fun d'écouter.
OK, tu as une série de sujets. Je veux juste tout de suite te dire que pour clore ta chronique, tu vas me dévoiler le nom de la nouvelle chandelle de Gwyneth Paltrow.
Tu veux vraiment
le savoir?
Je veux
pas que tu le dises tout de suite.
Tu le veux?
Oui, okay. Mais je vais t'écouter assurément d'une oreille très attentive pendant ta chronique, mais je vais essayer de cogiter aussi sur, selon moi, quel est le nom de cette chandelle-là. Okay?
Pour t'enligner puis pour garder un peu tout le monde accroché, là, tout le monde sur le bout de leur chaise. Sa précédente chandelle avait fait beaucoup parler parce qu'elle s'appelait « This smells like my vagina ».
Ah mon Dieu, c'est là que je m'en allais en plus.
Ben, c'est encore dans la même région.
OK, bon. Parfait.
Donc,
alors, on va commencer.
Écoute-moi pas,
avec une... On va commencer avec une Floridienne qui a des regrets. Est-ce que c'est d'avoir acheté la chandelle
Smells from vagina?
Ou...
Nope. Okay. C'est l'histoire d'une fille de Floride. Une fille là, qui regrette sa sortie au bar du 6 juin. Pas parce qu'elle était trop saoule puis qu'elle frenchait à plus de pouvoir. Non. Erica Crisp, c'est une travailleuse de la santé de 40 ans. Elle a été déclarée positive à la COVID-19 après avoir passé une seule soirée dans un pub irlandais de Jacksonville Beach. Chiturie, ça va être long, là. Ça va tellement être long. J'aurais pas dû dire son nom parce que j'ai... Les noms aujourd'hui, c'est...
Non, c'est que je pense à chandelle, excuse-moi.
OK. Moi, j'ai eu un accrochage sur le nom Erica Crisp. C'était sa première sortie à elle et ses amis. Elle dit qu'une quinzaine de ses amis ont également été déclarés positifs au nouveau coronavirus. C'était leur première sortie. Elle dit que ça doit être la loi de Murphy parce que tout ce qui...
Tu l'as morphé, hein? T'as morphé Murphy. La loi de Murphy. La loi de Murphy.
Murphy.
La loi de Murphy.
Comme je dis, un peu pointu. Ça va
pas,
là.
Murphy.
Une mornifle. Murphy.
C'est toi qui cours après le trouble.
Ben oui, c'est ça qui se passe en plus. Elle dit qu'ils ont, ont bien respecté les mesures de distanciation sociale, se sont confinés pendant de longues semaines, mais là, comme l'État réouvrait pas mal tout, les commerces, puis en Waiton, sa vigilance a comme été un petit peu défaillante, parce que c'était comme, ouh, gros party. On a l'impression que tout est beau, puis que tout est terminé, mais dans le fond, pas tant. Donc, dans le statut Facebook où elle révèle qu'elle a la COVID, elle met les hashtags, les petits mots clics, « ma faute ». Portez vos masques et j'aurais donc dû savoir. Parce qu'ils n'ont pas porté de masque, rien. Puis, y a même le bar a été obligé de fermer parce qu'il y a plusieurs clients, autres qu'elle et ses amis, qui ont eu la COVID. Fait que tu n'as pas le choix de fermer, de désinfecter, puis de rouvrir par la suite.
Parce que, tu sais, au début de la pandémie, là, on a beaucoup parlé des. Des événements, c'était quoi le terme? Supra, pas supraconducteur, là, mais tu sais, mettons des mariages ou des trucs de même où vraiment là, une personne pouvait en infecter pas 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25, 40, 60, là, tu sais. Ça, là, ça peut encore exister. Là,
ben oui.
Je veux dire, c'est pas parce que la pandémie, la première vague, elle est derrière nous et qu'on a contrôlé la pandémie que le virus, il se transmet pas moins facilement. Là. Donc, c'est sûr que dans des rassemblements. Si les gens font pas attention, peut-être que les mesures d'hygiène vont faire en sorte qu'on va un petit peu moins le propager qu'avant, mais ça veut pas dire que ça peut pas arriver. Là. Ça, ben c'est un bon exemple.
Exactement. Donc, elle dit si ça peut servir d'exemple, ben justement, faites attention. On aura été l'exemple.
Voilà. Bon, c'est intéressant.
Une chose
ça.
De faite.
Mais
maintenant, un pas de plus vers la chandelle.
Le bar Bee Barn, je ne connais pas le. Non, c'est quoi?
Je connaissais pas ça avant d'atterrir à Montréal et de me faire transporter dans cet univers. Le Barbie Barn, c'est y en a entre autres un restaurant situé sur la rue Guy, c'est au centre-ville. Ça va fermer ses portes et on y sert les meilleures côtes levées que j'ai mangées de toute ma sainte vie.
Ah, OK.
Et c'est pas peu dire. C'est incroyablement bon. C'est une institution, ça a ouvert en 1967 et là, ben, c'est la fin. L'autre restaurant à Dollar des Ormeaux va rester ouvert, petite consolation, mais c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Le restaurant de la rue Guy, c'était tout petit. T'avais comme l'impression d'être dans un chalet en bois rond. C'était brun, les murs, c'était, tu sais, brun-orange, puis tout ça là, dans ces années-là. Puis il y avait les photos des gens célèbres qui sont venus au Barbie Barn. C'est la fin. Donc, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui sont bien tristes parce que quand même, depuis 1967, le propriétaire était très connu. Il y a comme un paquet de facteurs qui font en sorte que finalement, ça va fermer. On avait ouvert pour les commandes à emporter dès mars, donc suite à la COVID. On comprend que la COVID, ça va être un coup dur pour plusieurs restaurateurs. Donc, eux sentent déjà l'impact. Mais aussi le fait que le fondateur de Barbie Barn, Manny Barnoff, lui, est décédé en décembre dernier. Il avait 90 ans. Et peut-être que ça vient brasser des trucs dans la business. Les gens du coin avaient déjà remarqué que l'immeuble allait être mis en vente cet hiver. Grosse perte puis grosse déception pour plusieurs parce que tu sais c'était aussi un arrêt si tu vas au Centre Bell peut-être ben vu que c'est pas trop loin tu pouvais aller arrêter manger une coupe de côte levée et c'est vraiment je te jure les meilleurs esquis les meilleurs côte levée et ce qui est particulier aussi c'est que d'habitude c'est la recette de ta sauce ta garde secrète mais M. Barnoff lui il hésitait pas à la donner. Il y a plusieurs internautes qui témoignent comme quoi, ben au moins, j'ai la recette de la fameuse sauce du Barbie Barn. Puis sinon, ben on peut toujours faire un petit bout en chour puis aller à Dollar des Ormeaux.
Est-ce que c'est fermé dès maintenant ou ils ont annoncé une date de fermeture?
C'est fermé.
Donc, ils ne peuvent même pas célébrer la fin d'une épopée. Ah, c'est dommage. Mais on en voit de plus en plus, premièrement, des institutions qui finissent par ne plus être capables de suivre les nouvelles vagues de modernisation, l'adaptation du milieu. Puis là, ben, en plus, avec un contexte économique qui est difficile, la COVID et tout ça, ben faudra pas surprendre d'en voir davantage. Là, tu me parlais des... Est-ce que ça existe vraiment, ça, des visages de personnes disparues sur les bouteilles de lait? Ça a déjà existé, là.
C'est pour ça que je vais t'en parler. Moi, j'avais l'impression que ça se pouvait comme pu. Mais ça se peut, finalement. Ça se peut. En Australie, c'est la police fédérale australienne qui, de nouveau, s'est tournée vers les bouteilles de lait pour avoir un peu d'aide dans ses recherches. Donc, la police s'est associée au Centre national de coordination des personnes disparues et aussi à Canberra Milk. Ils ont imprimé les photos de 16 Australiens et Australiennes disparus sans laisser de traces. Par exemple, une jeune maman disparue depuis 12 ans qui a laissé justement aucune trace, mais surtout a laissé derrière elle deux enfants qui étaient alors d'âge préscolaire. Donc, il y a plusieurs personnes, plusieurs cas qu'on met de l'avant. L'initiative a été lancée hier, ça va durer 4 semaines, et les photos de ces 16 personnes-là vont être donc sur toutes les bouteilles de lait vendues sur le territoire de la capitale australienne. Tu te dis, ça marche-tu vraiment cette affaire-là?
Ben, je crois que oui.
Ben, c'est pas pour rien qu'ils ont décidé d'étendre cette initiative-là, parce que l'année dernière, il y a une campagne similaire qui a été lancée et qui a mis en vedette, peut-être pas le bon mot, là, mais qui a mis de l'avant 12 personnes disparues de la région de Canberra, et ça a permis de localiser une personne, justement, en Australie, qui était disparue. La police dit que ce sont des initiatives aussi comme celle-là qui rappellent aux gens que les personnes disparues, ben, tu sais, c'est des vraies personnes, ils ont des familles, on les cherche encore, et c'est quelque chose dont il faut parler davantage. Tu sais, avec la bouteille de lait dans le milieu de la table, ben, ça peut susciter des conversations. Ici, ça a-tu déjà existé? Ça a existé, j'ai regardé au Québec, une fois. Il y a la presse qui avait fait un article là-dessus, il y a 3 ans, où on avait recensé le cas de Sébastien Métivier, 8 ans, qui était disparu le 1er novembre 1984 dans Chagan-Maisonneuve. Il est toujours recherché d'ailleurs. Sa photo, elle avait été imprimée sur plus de 250 000 cartons de lait agro-pur en juin 85. Puis ben, aujourd'hui, nos pagnes de lait, c'est un peu nos réseaux sociaux, dans le fond.
Oui.
Donc, puis aux États-Unis, ça avait démarré en 1984. Donc, on a un peu suivi cette vague-là, mais ça a pas resté, parce qu'il y a, entre autres, les producteurs de lait qui voulaient pas jeter des quantités importantes de lait. Tu sais, une fois que l'enfant est retrouvé, puis toi, t'es pogné avec sa face sur toutes tes bouteilles de lait, un peu plate.
C'est drôle, c'est très... ben ça là, fait froid, là, c'est mais, froid c'est, mais c'est ça pareil. Là.
Ben, c'est pas mal ça. Puis aussi, on évoquait quand eux, ils ont arrêté là, du côté des États-Unis de faire ce genre de trucs-là. On évoquait la lassitude de la population. Tu sais, une fois que t'en as vu un, puis c'est plate à dire, là, mais une fois que t'es habitué à avoir une photo sur une panne de lait, ben peut-être que... Tu sais, t'as plus la même vivacité d'esprit quand tu la vois. Finalement. Ben, exactement, tu sais.
J'essaie de retrouver une notification que j'ai vue passer tantôt pendant l'émission, là, mais là, je la retrouve pas. C'est en Australie, là, une disparition qui a fait la petite Maddie ou
Madeleine. Madeleine.
Ils pensent l'avoir retrouvée. C'est ça que j'ai vu?
Ben, la police pense d'y avoir, en fait, des preuves comme quoi elle serait décédée.
C'est ça, parce qu'elle n'avait jamais été retrouvée.
Attends un peu. Maddie McCann.
Oui, c'est ça.
Je suis en train de te...
Ses parents, il me semble que ses parents étaient soupçonnés depuis...
Il y a eu un paquet de gens qui ont été soupçonnés, puis il y a même eu... c'est elle qui fait l'objet d'un documentaire sur Netflix, hein, je pense. Ça se peut-tu?
Je pense que oui.
Mais la police qui aurait de bonnes raisons et des preuves là, de croire que ben elle serait décédée. Puis dans les derniers jours aussi, là, on parlait qu'on avait un suspect en vue.
Oh! OK, ouais. Donc ça va être à suivre dans l'actualité internationale. C'est sûr que ça va faire jaser. OK,
ouais.
Tel que promis, tu vas nous parler de la nouvelle chandelle de Gwyneth Paltrow.
T'as-tu des idées, Joe? Pour son nom?
J'avais plein d'idées. Il y en a plein que je ne suis pas sûr que je veux dire à la radio, okay. Mais je vais aller d'un guess. Sweaty Gwynny.
Peux-tu mettre des bruits de criquet?
Non, mais genre, on peut remplacer Gwenny par bien d'autres choses.
What? Oui, merci. Non, pas ça. Toi, tu souhaites-tu Gwenny?
Je ne sais pas. Écoute, c'est ça. C'était quoi le nom de sa précédente chandelle?
The smells like my vagina.
Ben là, excuse, mais on est pas mal dans une track commune, là.
Ben, elle est restée un peu dans la même track, mais elle a juste mis comme... comme mis un pied en dehors de la track. Donc, la nouvelle chandelle s'appelle « This smells like my orgasm ». Ça se sent comme mon orgasme. Puis sur la boîte, il y a des petits feux d'artifice, puis tout. Fait que c'est ça.
Excusez, là, mais ça sent quoi, un orgasme?
Ben, achète la chandelle, écoute. Gwen, non. Elle l'a trouvée.
Mais elle est vraiment là, elle est rendue tordue, cette femme-là, parce que, on fait des blagues, là, mais premièrement, on a son pendant québécois là, avec Jacinthe René, qui vend des produits santé relativement louches, là, qui soulèvent beaucoup de questions, puis même Jacinthe René avait fait face à un bon vent de face là, sur des produits dont elle faisait la promotion, qui supposément nous mettaient dans des bonnes prédispositions pour se protéger contre la COVID-19.
Oui, il y a eu d'autres affaires aussi par rapport à des bébés, à la manière dont on peut guérir certaines affaires.
Ben, c'est ça. Mais Gwyneth Paltrow, là, écoute... D'ailleurs, est-ce que son émission, ça a-tu été retiré sur Netflix?
Non, c'est toujours là. Aux dernières nouvelles, c'est toujours là. J'avais commencé à écouter un peu de certains épisodes, mais je suis comme pas convaincue. Tu sais, ce qu'elle explore, c'est toutes les méthodes alternatives.
Ouais.
Fait que, tu sais, ils s'en vont dans un endroit super froid, puis ils se baignent dans le gros, gros froid, puis là, t'as plus froid finalement au final, en tout cas.
Ben, c'est ça. Certains pensent qu'on peut guérir le cancer avec des prières, mettons, là.
Oui.
C'est toujours un peu particulier. Bah. Bon, ben, coudonc.
Ben, vous l'aurez appris,
si vous voulez, moi, je vais. Bon, il y a quelque chose, là, tu sais, vanille, mettons. Une bonne chandelle, oui. Vanille, tu sais, ça fait encore la job. Hey, ce soir, manquez pas ça, mais manquez-le si vous voulez, là. Mais.
OK.
Parce que je suis pas sûr de ce que ça va donner. Le débat des candidats à la chefferie Parti conservateur en français.
Oui, oui.
Allez voir l'article que le collègue Michael Labranche, entre autres, a fait. Là, on a vu des petites vidéos. C'est comme des pre-game shows là, où on voit leur français. Il y en a qui se sont améliorés. Peter McKay semble s'être amélioré, mais j'ai hâte de voir dans une joute politique comment ça va se passer. Ça se peut que ce soit légèrement pathétique, mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter là. Au pire, on vous sortira des extraits, on regardera.
Parfait, tu vas nous sortir ça, mon cher Jonathan. Ensemble.
Oui, oui, absolument. Je serai au rendez-vous. Ouais, un gros merci à toute l'équipe pour leur patience avec mon démon aujourd'hui. Deux animateurs forts et dissipés, mais ça fait du bien de rire. Alors, merci à Achille Moinet à la mise en onde, à Mathieu Boulay, à Frédéric Mocoll à la recherche. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. On vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain à 10h. Salut.